Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, on foule le terrain pour une partie de balle amicale avec les personnages du film Boulder Ram. Mettez votre casquette et votre gant de baseball, puis sortez vos arachides pendant qu'on vous fait découvrir ce grand chelem cinématographique qui vous plaira à coup sûr. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Maintenant que l'été est bien installé parmi nous, ça me donne très envie de parler de ce qui est selon moi le sport par excellence à y pratiquer, c'est-à-dire le baseball. Le cinéma américain manque définitivement pas de films dédiés aux passe-temps préférés de nos voisins du Sud et notre épisode d'aujourd'hui sera entièrement dédié à l'un de ceux-là. En compagnie d'une invitée que j'ai très hâte de vous présenter, on va revisiter le film Boulder Ram, qui est rien de moins qu'un mélange parfait des codes de la comédie romantique et du film sportif. Mené par trois acteurs de grand talent et un réalisateur qui a laissé sa marque dans les films sportifs romantiques, ce long métrage culte a tous les ingrédients qu'il faut pour créer une discussion passionnante qui fait déjà partie des meilleurs que ce podcast a eu. Mais juste avant de la commencer, je vous rappelle, mes chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez écouter et télécharger gratuitement tous nos précédents épisodes à partir de SoundCloud et Balado Québec. Simplement tapez 100 commentaires ou presque dans la barre de recherche de ces sites-là et ça va vous amener là où il faut. Et lors de votre prochaine visite sur Facebook, n'hésitez pas à devenir membre de la page officielle du podcast pour être informé des prochains épisodes et invités à venir. Vous nous trouverez au facebook.com/podcast-SCOP. Et sans plus attendre, commençons dès maintenant notre épisode d'aujourd'hui. Le film Boulder Ram. L'année 1988. Réalisé par Ron Shelton. Et mettant en vedette Susan Sarandon, plus talentueuse et sulfureuse que jamais. Kevin Costner dans un autre de ses rôles de joueur de baseball. Et Tim Robbins, quelques années avant qu'il s'évade de la prison de Shawshank. On est de retour, chers auditeurs, et on passe à l'action immédiatement. Je vais vous présenter avec le plus grand des plaisirs ma co-animatrice d'aujourd'hui. Qui est-elle? Eh bien, je vous donne quelques indices. Eh bien, elle est tout simplement la chroniqueuse culturelle de l'émission web diffusée sur Facebook Live qui s'appelle La Prof on the Rock. Aussi, si vous êtes fan de festival de musique de Toutacabie à Montréal, eh bien, vous l'avez assurément déjà croisée sans le savoir. C'est une cinéphile aguerrie, c'est une fanatique de baseball, c'est ma Annie Savoy personnelle. Mes amis, je vous présente Tina Faneuf.
Salut!
Tina, je suis extrêmement heureux que tu sois avec nous autres aujourd'hui.
C'est tellement réciproque.
Puis comme je te disais, Ordon, écoute, t'es enfin la première femme à être derrière les micros de 100 commentaires ou presque.
Et nullement l'autre la dernière.
C'est ça que je me disais, j'espère que t'es pas la seule et pas la dernière. Puis j'espère
que ouvrir la voie, comme on dit.
Le pionnière, absolument. Puis j'espère, en fait, c'est certainement pas la dernière fois aussi que tu vas revenir. Alors, comme je disais, dans l'intro, on parle de Boulder Ram, la belle et le vétéran, la version française. Le titre que j'aime beaucoup, je le trouve très poétique, je le trouve très très beau. Alors moi, j'y vais avec la question brise-glace. Peux-tu me parler, à moi et à nos auditeurs, de la première fois où t'as vu Boulder Ram, la belle et le vétéran?
Ben, en fait, déjà, moi, le titre francophone, je le trouve, bizarre, parce que ça représente absolument pas, comment je présente ça, le film en tant que tel, parce que bon, ça, en fait, il y a eu même une autre traduction qui est, je crois que c'est le trip à trois ou le ménage à trois, ou, en tout cas, il y a la version française et non québécoise.
Ça doit être quelque chose de pas genre ménage à trois au champ centre.
Je sais pas, mais écoute, je te dis, tu feras tes recherches, il y a quelque chose avec ménage à trois ou trip à trois, quelque chose du genre. Peut-être juste pour contextualiser, ça fait, tu as dit dans l'intro que oui, que je connaissais le baseball, mais je pense qu'on peut pas connaître pleinement un sport si on y a pas joué. Malheureusement, je n'ai pas joué au baseball, donc je peux pas m'estimer une experte comme Annie Lee dans le film, mais ça fait pas si longtemps que ça quand on regarde par rapport à mon âge vénérable de 37 ans que j'aime le baseball. Faire justement un contexte, avant de sortir avec mon copain actuel, j'exécrais le baseball, pour être honnête, un peu comme le soccer que toi tu m'as initié, mais avant, il y a 14 ou 15 ans, moi le baseball c'était pas une histoire d'amour, disons. Et puis
tu sais que je suis complètement choqué puis en bas de ma chaise en ce moment là.
Ah non, mais wow. Écoute, gars, des fois on connaît pas pleinement quelqu'un, mais ça c'est une chose que je t'apprends. Donc avant de sortir avec mon cher Pascal qui est lanceur au baseball, a joué pour le baseball élite des Ducs de Longueuil.
Quel homme!
Puis, c'est ça, lanceur droitier. Comme je dis, moi, le baseball, c'était un peu comme on voit dans le film dans Boulder Ram. Tu sais, c'est un jeu si simple. Tu attrapes la balle, tu frappes la balle, puis bon, et tu cognes la balle. Mais moi, justement, je voyais pas la beauté en arrière de ce sport-là avant il y a 14 ans, 14 ou 15 ans. Et puis, donc, pour contextualiser avec Boulder Ram, c'est ça. C'est que quand j'ai commencé à sortir avec Pascal, il m'a dit, écoute, pour bien comprendre le joueur de baseball, le lanceur et bon, ce qui est la religion du baseball, un peu comme ça reprend dans le film, il m'avait donné une liste de films de baseball, dans le fond, à me taper pour un peu comprendre
la dynamique
du sport. Puis on m'avait déjà dit aussi que les gens comprenaient pas pourquoi que j'aimais pas le baseball, parce que c'est plein de statistiques, c'est plein justement de c'est un beau sport quand c'est super bien joué. Les gens même en revenaient pas que j'aimais pas le baseball jusqu'à il y a pas si longtemps. Donc dans la liste des films, évidemment, bon, il y avait Boulder Ram, il y avait For Love of the Game, il y avait The Natural avec Robert Redford, il y avait Babe Ruth, ben je pense que c'est juste Babe en fait.
Ouais, Babe,
quelque chose comme ça. Il y avait aussi Eight Men Out, puis il y avait un autre film que là ça m'échappe, mais en tout cas, il y avait une liste de films qu'il fallait que je me tape. Donc, qui est quand même drôle, donc en 2004, si on se situe un peu, donc en 2004, je visionne pour la première fois Boulder Ram et écoute, je suis tombé sous le charme tout de suite et puis j'ai fait « Ah, c'est ça le baseball ». Pas nécessairement dans tout son ensemble, c'est sûr, comme je dis, il faut écouter des parties, il faut, tu sais, comprendre. Déjà là, les 9 positions, je les connaissais zéro avant de regarder.
Tu te demandais sûrement quand est-ce que la Zamboni allait passer.
Ouais, en femme d'hockey finie que je suis depuis l'enfance, effectivement. Mais non, je dirais juste que c'est ça, je suis tombé complètement en amour, autant avec les personnages qu'avec le baseball, qui était super bien expliqué, mais justement dans l'œil d'une femme. Tu sais, on est dans une époque aujourd'hui, tu sais, qui est très féministe, mais moi, il y a 15 ans, j'avais quand même 23, 24 ans. C'était pas nécessairement que, tu sais, j'étais très engagée politiquement, mais pas nécessairement, je me décrivais pas comme quelqu'un de féministe, tu sais, d'égalitaire peut-être, mais bon. Fait que c'est sûr que en voyant Boulder Ram, ben, c'est ce qui m'a fait, qui a frappé. Puis depuis ce temps-là, je te dirais que je l'écoute une fois par semaine, no joke. C'est vraiment un de mes films fétiches, puis les gens qui veulent vraiment comprendre le baseball, je te dirais que je leur suggère la même chose. Donc, c'est ça. 2004, je te dirais, même si le film a été tourné en 88, moi, je l'ai tourné en 87, il faut sortir en 88, je l'ai juste vu pour la première fois en 2004.
C'est ça, il est jamais trop tard. Puis en plus, cette année, ben Boulder Ram fête ses 30 ans, honnêtement. Fait que je décrète aujourd'hui que c'est le party officiel ici pour célébrer les 30 ans de La Belle et le Vétéran. Moi, je peux peut-être aussi t'accompagner avec la première fois que j'ai vu Boulder Ram. Tina, c'est pour toutes les mauvaises raisons, OK? au début des années 90, je regardais beaucoup de films avec mes parents, on était abonnés à Super Écran, et un soir, il y a Les Sorcières d'Eastwick qui joue The Witches of Eastwick, dans lequel Susan Sarandon joue. Depuis ce temps-là, que je pense que j'avais peut-être 6 ans, j'ai
c'est
un amour inconditionnel pour Susan Sarandon. C'est grave. En fait, c'est à cause d'elle que j'ai un attrait très marqué pour les femmes beaucoup plus vieilles que moi. Je trouve qu'elles, en vieillissant, elles ont un charme, une présence,
une assurance,
tout ce qui réussit à me séduire. Et Susan Sarandon, depuis des années, elle incarne justement par toutes les qualités, aussi sculpturales qu'intellectuelles, vraiment, ce fantasme-là pour moi. À un moment donné, bon, on flash forward quelques années plus tard, j'ai peut-être à peu près une douzaine d'années, vraiment sur le point de devenir un adolescent dans la plus pure des formes, et là, je suis dans la ruelle en arrière de chez nous, je joue au hockey, puis l'un de mes amis fait comme genre « Hey, il y a la belle vétéran qui joue ce soir. Ah ouais, c'est quoi ce film-là? Ah ben Susan Sarandon, puis il paraît que t'as voix toute nue dedans. Oh! » Là, écoute, les hormones dans mon corps se sont mis littéralement au garde-à-vous et j'ai fait « Ok, non, je peux pas rater ça ». Alors, tout de suite après la partie de hockey, je suis allé chez Jean Coussu, je suis allé m'acheter une cassette VHS vierge pour enregistrer La Belle et le Vétéran parce que, écoute, apparemment, selon mon ami qui était une excellente source, Susan Sarandon était toute nue dans ce film-là. Écoute, fallait que je voie ça. Regarde, c'était la concrétisation de mon fantasme. 19h arrive à TVA, donc je plug la cassette, j'appuie sur record, le film joue et, ben, ultimement, à la toute fin, j'ai été déçu. dessus, parce que Suzanne, complètement nue, on ne voit pas dans ce film-là. On voit quoi? On voit une superbe silhouette dans des vêtements moulants, on voit de magnifiques jambes et des cuisses, on voit peut-être une espèce de galbe, de début de poitrine, etc. Mais malheureusement, on voit un très très beau dos aussi dans une scène de baignoire. Mais malheureusement, le nu complet, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais il y a une petite joie à la toute fin, parce que l'instrument de masturbation que je pensais avoir et que j'ai pas eu, mais ce que j'ai découvert à la place, c'est un film de baseball formidable. C'est une comédie romantique aussi, avec un background, c'est-à-dire un arrière-plan sportif qui met en vedette le baseball, parce que moi aussi, j'ai joué au baseball dans les petites ligues, écoute, depuis l'âge de 5 ans, puis à 12 ans, j'étais encore là-dedans. Alors, c'était un mélange de bons acteurs que j'adorais, Tim Robbins, Kevin Costner à l'époque, qui pour moi était Robin Desbois,
oui.
Susan Sarandon, le baseball aussi. Fait que c'était tout un melting pot de trucs que j'adorais. Et un peu comme toi, à cette époque-là, pendant cet été-là, Boulder Ram, je l'écoutais une fois par semaine parce que je le trouvais vraiment divertissant. Il y a vraiment de tout dans ce film-là. Il y a des bonnes scènes de baseball, il y a une belle histoire, des très bons dialogues. Les acteurs sont au top de la game. Alors, pour moi, c'est un petit coup de foudre, honnêtement. Puis à un moment donné, s'il y a des amis avec qui je regarde un film qui ont envie de regarder une comédie romantique, quelque chose de genre, qui sort un peu du moule qu'on connaît tellement de nos jours, je leur propose La Belle et le Vétéran, puis eux autres aussi tombent sous le charme de Susan Sarandon dans ce film-là, de Kevin Costner, de Tim Robbins et de tout le monde qui est dans ce film-là. C'est une belle expérience à chaque fois, honnêtement. Donc, c'est super.
Sérieusement, c'est pas comme quelque chose qui est historique, un peu comme Babe, comme 42, même, qui est pour...
Jackie Robinson.
Tu sais, c'est ce que j'ai aimé vraiment aussi de ce film-là, c'est que j'adore tout ce qui est, bibliographique et des affaires comme ça, mais ce que j'ai trouvé vraiment cool, justement, de Boulder Ram, c'est que, oui, il y a plein de choses qui sont véridiques dans le film ou qui sont inspirées de faits réels.
Oui, on va en parler d'ailleurs.
Non, c'est ça. Mais j'ai trouvé justement, comme tu dis, ça sortait du moule, tu sais, cucu un peu, si on peut dire ça comme ça, de ce qu'on est habitué des comédies romantiques un peu sportives ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, donc j'abonde dans le même sens que toi, que ça sortait du lot des autres choses qui ont été faites.
Exactement.
À cette époque-là.
Fait que ça donnait une bonne expérience autant pour toi que pour moi. Fait que c'est pour ça que ça te donne le droit d'être devant moi ici ce soir. Puis qu'on en parle.
Le privilège.
C'est ça, qu'on en parle dans le fond. Ben, en fait, c'est que, genre, les gens dans mon entourage qui connaissent Boulder Ram, qui l'aiment, ben, c'est très, très rare. Alors, ben, je suis content d'avoir cette rareté-là devant moi avec toi ce soir. Pour ceux qui ont peut-être pas vu ce film-là, nos auditeurs qui le découvrent au moyen de nos voix, puis on espère qu'on va leur donner le goût de le regarder, je peux peut-être faire une petite mini résumé de l'histoire. Tu sais, je fais ça à capella, tout simplement. C'est dans la ville de Durham, il y a une équipe sportive de baseball de niveau 3A qui est affiliée à une équipe des majeurs. Et bon, on fait la connaissance d'une femme qui s'appelle Annie Savoy, qui elle a une petite tradition à toutes les saisons, c'est-à-dire elle va avoir elle va prendre pour amant un joueur de l'équipe des Bulls de Durham, et tout simplement ils vont avoir une très belle relation pendant la saison. Et son but à Annie, ça va être de tout simplement ouvrir un peu l'esprit de ce prétendant-là, tout simplement en l'initiant à un autre mode de pensée, en l'initiant à une sexualité libre, en l'initiant à aussi, bon, beaucoup de littérature et une autre façon de voir les choses. Et elle va s'enticher de la recrue de l'année, qui est Abby Calvin Lalouche. Et lui, ben, ultimement,
Nucleus.
C'est ça.
Appelez-moi Nucleus.
Exactement. Ça, c'est le nouveau lanceur, etc. Mais le problème, c'est que lui a des énormes problèmes de contrôle. C'est un petit cri. Et, l'équipe, pour lui donner un mentor, va embaucher Crash Davis, qui est un vieux vétéran des ligues mineures, qui est incarné par
Kevin Costner,
effectivement. Puis, voilà. Donc, il va le prendre sous son aile, essayer de lui apprendre comment se comporter en professionnel et faire en sorte, justement, qu'il soit capable d'avoir,
qui devient son receveur aussi.
Exactement. Puis faire en sorte, c'est ça, qu'il règle ses problèmes de contrôle. Alors, ultimement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un triangle amoureux pendant toute la saison entre Lalouche, Crash Davis et avec Annie. Et tout ça pour notre plus grand plaisir de spectateur et tout ça. Donc, parlant de personnages, ben, le film en a beaucoup. On a trois qui sont très intéressants, trois protagonistes. Donc, je le répète, Annie est jouée par Susan Sarandon, Lalouche par Tim Robbins, futur époux, justement, de longue date de Susan Sarandon. D'ailleurs, c'est là qu'ils sont connus.
Ouais.
Donc moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'Annie Savoy, parce que ultimement j'ai fait mes recherches pendant toute la semaine avant qu'on enregistre, puis je me suis tourné vers des analyses de films qui ont été écrits sur La Belle et le Vétéran. Je me suis tourné vers des critiques de cinéma très influents qui avaient vraiment un peu leurs approches puis leur vue sur qui était ce personnage-là. Moi, j'ai vu toutes sortes de théories, c'est-à-dire, un, ben c'est un fantasme sur deux pattes du scénariste, une femme qui n'existe pas vraiment dans la vraie vie.
Il y a quoi être un fantasme, là? Je veux dire, elle a tout tout pour elle, Annie, là, je veux dire.
Quelle femme.
Vraiment.
Puis aussi, bon, soit une croqueuse d'hommes en série, pour pas dire une slut, ou c'est une femme complètement libérée.
Ouais, le slut shaming existait déjà en 1988, même
je sais,
si
donc
ça
je suis pas fier de Gene Siskel, mais c'est ce qu'il avait écrit dans sa critique.
Oh,
puis la troisième, ben, femme libérée. Mais juste avant qu'on en discute, toi et moi, qu'on parle un peu du psyché de Annie, j'ai envie qu'on écoute un extrait, parce que Annie va nous amener elle-même dans son propre psyché, grâce à une voix hors champ, qui se produit au tout début du film pendant le générique, où est-ce qu'elle va nous parler un peu de sa façon de voir les choses et de son, son habitude pendant toutes les saisons de prendre un joueur pour amant. Alors on va écouter ça un petit peu, puis on s'en reparle après.
Le baseball ne vous culpabilise pas, on ne s'en lasse pas. C'est un peu comme le sexe au fond. Je n'ai jamais couché avec un joueur de baseball qui ne soit au sommet de sa carrière. Faire l'amour, c'est comme frapper la balle. Il suffit de se laisser aller et de se concentrer. Par ailleurs, je n'ai jamais couché avec un joueur en dessous de 250 de moyenne. Oh, sauf s'il avait un record de série ou si c'était un grand receveur. Je dois dire que j'apporte à ces garçons une certaine philosophie de la vie. Je leur développe l'esprit. Quelquefois, lorsque je suis seule avec un joueur, je lui lis un passage d'Emily Dickinson ou de Walt Whitman. Ils sont tous adorables, ils restent là, ils écoutent. Le fait est qu'un garçon écoutera n'importe quoi s'il pense qu'il s'agit des préliminaires. Avec moi, ils se sentent en confiance. Et avec eux, je me sens en sécurité. Et je me sens jolie. Ce que je leur apporte dure toute leur vie. Bien sûr, ce qu'ils m'apportent, eux, ne dure que le temps d'une saison. Je sais, ça a l'air d'un marché de dupes. Mais les marchés de dupes sont monnaie courante au baseball. Qui prétendrait qu'un Milt Pappas vaut un Frank Robinson? La saison est longue, mais elle tient ses promesses. J'ai tout essayé. Vraiment tout. La seule église qui offre une réelle nourriture spirituelle jour après jour est l'église du baseball.
Annie, ultimement, ben, dans ce qu'elle nous a parlé, elle a vraiment le meilleur des deux mondes. Elle, c'est une entente tout à fait libre qu'elle a avec elle-même. C'est-à-dire, c'est un donnant-donnant. Elle passe un bon moment avec un joueur pour lui redonner de l'estime personnelle. Elle, justement, elle se sent en sécurité. Elle se sent belle. Elle se sent en pleine possession de ses moyens, de ses convictions féminines et tout ça au sommet de son charme. Donc, moi, je pense qu'il y a personne de gagnant. Parce que moi, il faut que je le dise. Annie, moi, je suis plus du camp de la femme libérée, que j'accepte qu'elle agisse comme ça, puis moi j'ai aucun mal, puis aucune, comment dire, manière de m'opposer à ça, parce que c'est, ça fait du sens dans sa tête, ça dérange personne, et voilà, elle se sent bien libérée, puis son bonheur, ben si elle est heureuse, moi je suis heureux.
Tu vois, de mon côté, c'est drôle, parce que moi aussi, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur à peu près les mêmes critiques que toi par rapport à Annie, le personnage, par rapport à si c'était un fantasme, une croqueuse d'homme et tout, mais je vais pousser un peu plus loin le femme libérée. Comme je disais tantôt, pour moi, Annie représente une sorte de feminist hero. C'est drôle parce que dans mes recherches, je suis tombée sur un blog de Maura McAndrew. C'est une publication du 10 mai 2016. Puis, écoute, j'aurais pu écrire l'article moi-même. En fait, elle fait l'état des trois films qui ont le plus marqué, elle, son parcours d'amour du baseball. Puis bon, il y avait A League of Their Own, il y avait For the Love of Game, et il y avait aussi Boulderham. Puis elle décrit Annie, justement, tu sais, comme dans le fond, un précepte, dans le fond, un peu au féminisme, où justement, I'll do what I want, comment je le veux, puis comment je le décide. C'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais elle a peur de l'engagement, elle prend juste des petits jeunes qui sont éphémères, et tu sais, qui quittent la ville après
la
saison.
C'est ça, oui.
C'est ça. Donc, tu sais, il y a ça. Mais moi, je vois surtout aussi, Annie, elle peut être perçue aussi comme, ah, oh, c'est une groupie des joueurs, parce que justement, elle presse cette entente-là, mais avec l'extrait qu'on vient de voir, justement, elle parle qu'elle ira jamais en bas de quelqu'un qui va frapper en bas de 250. Pour les gens qui connaissent pas le baseball, la surface de contact dans le fond d'une balle de baseball, c'est aussi petit et même plus petit qu'un 10 sous sur un bat de baseball. Donc si t'arrives à frapper 3 fois sur 10, ce qui est une moyenne exceptionnelle, donc pour 300, c'est exceptionnel au baseball. Donc, quand elle parle des statistiques de s'il frappe pas pour 250, à moins d'avoir beaucoup de points produits, ou être un gant doré potentiel ou quelque chose comme ça, donc on voit effectivement
que
ses standards sont élevés. T'sais, elle ira pas pour second best, puis je trouve ça magnifique.
Puis aussi, hey, juste pour rebondir sur ce que tu disais, oui. Le côté groupe puis Danny, ce qui est amusant, c'est que dans les sphères du baseball puis dans le langage interne, une Annie, c'est utilisé comme terme pour une groupie.
Ah, pour vrai?
Ouais, exactement. Ah, les joueurs vont en parler. Ah, on a une Annie ici, j'ai une Annie à Cleveland, j'ai une Annie à New York.
Tu vois, moi, j'aurais plus vu le personnage de Millie dans cette expression-là, c'est parce vrai. Que Millie se tape, tu sais,
oui, on va en parler tantôt, effectivement,
là,
mais oui.
Mais pour moi, tu sais, une Annie, pour moi, ça, tu sais, le terme, tu sais, la façon que tu l'utilises ou que, tu sais, c'est utilisé dans le baseball, je trouve ça un peu péjoratif parce qu'elle n'est pas juste une groupie, Annie.
Aucunement.
C'est une experte. Tu sais, on la voit, en tout cas, dans le film, on va en parler aussi plus longuement tout à l'heure, mais, tu sais, elle va pratiquer, elle va donner des conseils aux jeunes, dans la cage des frappeurs, à un moment donné, une scène avec Crash, que, tu sais, elle montre comment bouger ses hanches. C'est pas juste, c'est ça, une groupie pour moi, c'est vraiment une experte du baseball. Puis, même juste dans l'intro qu'on vient d'écouter, tu sais, elle fait référence à la religion du baseball. Tu sais, pourquoi la religion du baseball? C'est qu'elle a essayé toutes les religions. Puis elle a dit un peu plus tôt dans l'extrait qu'on a présenté, elle dit qu'elle a essayé toutes les religions. Tu sais, Bouddha, Allah, Shiva et tout. Puis, pourquoi le Church of Baseball, un peu comme dans la version anglaise, elle s'est rendue compte qu'il y a 108 perles dans un chapelet catholique et il y a aussi 108 coutures sur une balle de baseball. Donc, c'est pourquoi elle a décidé de donner la chance au Seigneur, mais elle dit justement plus tard dans l'extrait que le Seigneur la culpabilise beaucoup trop pour son côté affirmé, ouvert, libéré sexuellement et tout. Donc, je la vois pas juste comme c'est ça, comme une groupie. Puis il y a aussi le fait que Annie est pas juste, tu sais, comme une groupie, c'est une experte quand, je sais pas si on va le voir plus tard, mais quand elle dit à Crash, à un moment donné, Crash, il venait d'un autre ligue, puis tu sais, il y avait un record à battre de 247 circuits à atteindre. Puis que, tu sais, ça serait pas publicisé, ça serait pas, il y aurait pas les médias qui seraient là-dessus, mais que c'est comme un petit secret en tel, puis Crash, tu sais, dans le fond, quand lui va, plus tard dans le film, quand il va justement atteindre ce record-là, puis après ça, dire qu'il se retire. Une groupie, pour moi, c'est quelqu'un qui va pas nécessairement connaître. Tu sais, on voit justement dans le personnage de Millie, qui est comme l'acolyte de Annie.
Oui, une genre de proto-Annie.
Ouais. Ouais, non, mais c'est ça exactement, tu sais, justement comme une des scènes du début où est-ce que la louche est avec Millie, puis bon, puis elle dit « Ah, oh, j'ai cédé, dans le fond, à la tentation », puis que Annie la ramène tout de suite, puis en disant « Non, les femmes ne cèdent pas », tu sais, assume totalement.
J'ai fait ça de manière consentante et j'assume la responsabilité de mes actes.
Exactement. Ouais. Merci pour le quote exact en français, mais c'est ça, tu sais. Donc, c'est effectivement une femme libérée, tu sais, j'abonde dans le même sens que tu disais, mais je voulais vraiment comme préciser le petit côté féminisme de la chose avant que ça arrive, tu sais, de plus d'actualité aujourd'hui.
Puis non seulement aussi, ça, on a parlé beaucoup juste de l'aspect baseball, de son lien avec le baseball. L'affaire aussi, c'est qu'elle a toute une vie à l'extérieur du baseball aussi. Moi, j'ai noté certaines de ses qualités.
Prof.
C'est ça, c'est une enseignante, c'est une femme complètement instruite, lettrée, qui est passionnée de littérature classique américaine. Elle fait faire tout le long du film des références aux auteurs très connus, aux poètes, à la Robert Frost, James Joyce, des affaires de même. C'est une fille extrêmement intelligente puis aussi qui essaie de partager son savoir un petit peu par pédantisme à ses amants en les attachant au lit puis en leur lisant de la poésie. C'est merveilleux. Aussi, son âge lui donne de la confiance parce que là, Annie est jouée par une Susan Sarandon qui à l'époque fêtait ses 42 ans. Donc l'âge lui donne une certaine confiance, lui donne aussi un contrôle sur l'homme parce que nous autres, les hommes, on a toujours ce fantasme-là. Je viens de l'avouer qu'on aime des femmes d'expérience qui en ont vécu, qui peuvent nous apprendre des choses puis nous autres, on veut leur apprendre aussi des choses, leur donner le petit jouvenceau qu'on est, quelque chose de genre. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est connu dans l'entourage de l'équipe que Annie fait ça depuis des années, mais il n'y a pas de slut shaming là-dedans. Elle a le respect de l'équipe d'entraîneur, parce qu'à un moment donné, justement, quand Nucleus revient le lendemain matin, il y a le coach qui vient comme...
Puis est-ce aussi bonne?
C'est ça, non, il dit carrément, est-ce que t'as fait l'amour avec Annie? Ok, c'est bon, tu vas avoir une super saison à cause de ça. C'est connu, il y a pas de, ah, c'est une slot, qu'est-ce que tu fais avec
exactement.
Elle? Non, c'est comme si c'était un porte-bonheur être avec Annie, tout ça, c'est qu'il y a des grandes choses qui arrivent, puis je trouve que ça fait la jonction entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie d'amateur de baseball. Je pense que c'est une femme qui peut, on la disait qu'elle était libérée, elle a l'air très relaxe tout le long du film, je pense que tout ça, ça contribue à ça. T'sais, quand on se rend compte que sa réputation est bonne envers tout le monde, que c'est
mais
ce qu'on veut.
Le seul moment où est-ce qu'on voit qu'elle perd contrôle, c'est justement t'sais, quand, à un moment donné, ils sont sur un winning streak.
C'est ça, son plan sort tout le contraire.
Oui, exactement. Puis que, t'sais, là, t'as la louche qui arrive, puis qui dit, parce que même dans une pratique, justement avec Millie, puis la louche, t'sais, elle lui dit non, tu pourrais comme conserver ton énergie sexuelle après la game, puis tout, puis il commence à gagner à partir de ce moment-là, puis il la boude un peu, puis elle débarque chez Crash, puis tu sais, c'est quoi cette histoire-là de dire à la louche de pas, tu sais, de pas baiser avec moi, puis tout, puis là, elle est vraiment, c'est la seule fois dans le film vraiment où on la voit perdre un espèce de contrôle.
Exactement.
Puis, tu sais, même elle était émotive, puis tu sais, dire à Crash comme quoi que, garde, c'est la pire saison de sa vie parce qu'elle est imbaisable, puis que les Bulls gagnent, puis bon.
C'est le principe de la création qui se retourne contre toi, là, c'est ça, carrément.
C'est ça, puis ben, on se rend compte bien vite que sa perte de contrôle tient aussi du fait de la dualité. Tu sais, on parlait du triangle amoureux, mais on voit tout de suite que quand elle lui dit justement j'ai envie de vous, puis que tu sais, elle s'est retenue tout le long pour pas le dire, puis dans le fond c'est parti de ça, c'est que là elle sait que la louche dans le fond il donnera pas qu'est-ce qu'elle veut tant et aussi longtemps que il va gagner. Puis là ben elle essaye peut-être de se tourner vers Crash.
Ouais, un genre de plan B de panique là, c'est ça.
C'est ça exactement, puis on voit aussi que Crash embarque pas du tout dans la game.
Un bon vétéran comme lui d'autre, tout voilà, à fait. Exactement. Fait qu'on sent une certaine vulnérabilité, mais tout ça dont tu viens de parler, carrément, la perte de contrôle de son plan, on va y venir plus tard, mais ça fait partie de son arc de personnage à la toute fin. On va voir que, je brûlerai pas le punch suite, mais on va voir que le personnage change complètement, puis c'est pas la seule à changer dans le film non plus. Parlant de notre ami A.B. Calvin Nucleus Lalouche, ben on va parler de lui, le jeune lanceur qui est joué par un jeune Tim Robbins de 30 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui?
Il en a l'air de 22.
En fait, Tim Robbins, je pense qu'il est à la fin de la cinquantaine en ce moment, puis encore une baby face. C'était
C'est fou là. Même moi, quand tu m'avais dit justement, quand on a échangé sur le fait d'enregistrer ce podcast là, que tu me disais, mais non, il y a 30 ans, puis Kevin Costner était à peine plus vieux. Mais pour moi, Kevin Costner a toujours eu l'air de ce qu'il a l'air dans ce film là. Tu sais, on parlait de Robin Hood tout à l'heure. Ben pour moi, il est comme resté figé à cette image là. Dancing with Wolves, il y a peut-être juste une moustache de plus. Tu sais, il a comme pas vraiment changé dans les années 80.
Exactement, mais ça m'a obsédé. Plus que tu parles de Kevin Costner, ça m'a obsédé cette semaine parce que pour moi, Kevin Costner, depuis que je suis tout petit, a toujours eu l'air d'avoir 42 ans. Puis même dans ce film-là, il y en a 33. Écoute, je suis sur le point d'en avoir 33 aussi. Puis il a l'air de mon père.
C'est vrai.
Dans ce film-là, c'est hallucinant. Je sais pas ce qu'il y a tant mieux s'il a figé dans le temps. C'est super, même de nos jours, il a encore l'air d'un peu de ça, même dans la soixantaine. Mais
un peu plus de rides, mais
c'est ça qui me fait rire chez les acteurs carrément qui sont intemporels. Puis à un moment donné, on dirait qu'ils gèlent dans le temps. Ouais. Même dans la jeune trentaine, c'est hallucinant. Fait que j'ai beaucoup pensé à ça. Je me disais, OK, comme 2 ans plus tard, en 90, il était à Dancing with the Wolf, il faisait sa première réalisation, puis il en avait à peine 35.
Mais il a l'air de la même affaire, tu sais.
Exactement. C'est une bonne chose, je pense, pour lui. De mon côté, notre ami Nucleus Lalouche, bon, moi, je peux le voir avec les qualificatifs suivants. Bon, c'est un lanceur, comme je disais tantôt, c'est un diamant brut à polir.
Un droitier.
C'est le fantasme vraiment de tout entraîneur ou toute équipe de baseball à avoir, qui a d'énormes problèmes de contrôle dès la première scène où est-ce qu'on le voit lancer. Que je me demande s'il y a vraiment un lancer qui atteint le receveur, il pogne la mascotte, l'annonceur, il envoie
la
ça sa balle dans le foule.
Alors
c'est pas tout ça, c'est vrai, il envoie ça plutôt chez le descripteur radio. Vraiment, c'est un petit fraîchier aussi, toujours prêt à séduire.
Très arrogant.
Oui, arrogant. Tu sais, je suis rendu dans les 3A, je suis à quelques jours de me faire appeler dans le grand club. Tu sais, je conduis une Porsche, je peux baiser tout ce qui bouge. Parce que la première fois qu'on le voit,
j'ai un système de son Blowpunkt en français qui est absolument dégueulasse quand il le dit là, mais bon.
Puis c'est ça, la première fois qu'on le voit, il a les culottes baissées avec Millie, puis il est à 4 minutes de son match, de son premier départ avec l'équipe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de foutre dans les vestiaires, il s'en fout royalement.
Il y a aucun respect pour le baseball, puis d'ailleurs Crash va lui renoter un peu plus tard. Puis même justement quand on voit la scène qui se tape Millie, t'as le coach qui vient le voir dans, tu sais, écoute, qu'est-ce que tu fais avec n'importe quel traîné? Et Millie de sortir, puis on comprend que c'est comme la fille du gérant de l'équipe ou quelque chose comme ça.
Mais pas nécessairement un gars, un partenaire corporatif de l'équipe,
c'est ça qui va faire l'écran, dans le fond l'écran géant aux Bulls.
Ouais, on n'a pas besoin de cet écran, on marque pas aucun point.
Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Puis là, après ça, quand justement le coach s'en va du vestiaire, tu vois comme la louche qui se prépare même pas, là, il fait comme, il me reste encore 3 minutes, tu sais, c'est comme...
Mais je pense que la louche est au bon moment, au bon endroit carrément, parce qu'il va faire la rencontre pendant cette saison-là d'Annie et de Crash Davis carrément, qui vont changer sa vie royalement. En premier, bon, avec Crash, bien sûr, c'est que bon, il va se faire attitrer ce vétéran-là dont il veut rien savoir et qui va lui apprendre,
vieux, c'est
ça,
rien,
qui va lui apprendre les choses de la vie, vraiment un vieux croulant qui a jamais eu sa chance d'un majeur. À quoi ça sert? Moi, je suis genre vraiment la superstar en devenir, mais moi pas un vieux croulant dans les
j'ai un
dans
brin
les
un
pattes.
Million, mais tout ce que je vois, c'est le 5 cents que dans le citron.
Exactement. On va voir qu'à la fin, ben, je avance un petit peu, mais Crash va réussir son pari, puis il va réussir à mettre un peu de sens dans la tête de cette tête brûlée-là. Ça va lui coûter cher, parfois, certains coups de circuit qui n'étaient pas désirés, mais voilà, ça va marcher. Sinon, ben, avec Annie aussi, c'est le meilleur des timings possibles, parce qu'elle va avoir une énorme influence sur lui. Elle va lui donner des très bons conseils dès le début. Elle lui dit, calme un peu d'eau, puis tu vas voir, tu vas lancer plus de prises. Elle lui donne son surnom aussi, parce que tout le long au début du film, il est comme, ah, oh, tout le monde dans l'équipe
c'est
a un
trop
surnom.
Long, c'est trop long. Déjà, Abby, Calvin, Lalouche, c'était
c'est
trop
ça,
long.
Exactement. J'ai rien. C'est... Peux-tu me donner quelque chose? Et ça, il trouve rien. Puis finalement, à un moment donné, elle dit, man, t'es vraiment trop horny. T'as l'air d'un réacteur nucléaire en fusion. Puis après ça, ça lui donne ça lui donne justement l'idée de l'appeler Nucleus. Puis ultimement, ben aussi, ça va lui donner le fameux truc que je suis sûr que Lalouche a utilisé le reste de sa carrière, c'est-à-dire porter de la lingerie féminine en dessous de son équipement pour
et
garder
la
rose
posture. Devant.
La rose, elle va devant. Exactement. À un moment donné, il y a une merveilleuse scène où est-ce que Annie lui prête un de ses porte-jartels et lui dit porte ça, ça va corriger ta posture pendant que tu vas t'élancer pour lancer tes tirs.
Tu vas focaliser sur ça plus que n'importe quoi. Tu vas écouter les signaux dans le fond de ton receveur. Donc tu ne penseras pas, tu vas juste lancer.
Et tout le long, il hésite beaucoup et il y a de la misère dans ses performances jusqu'au moment où est-ce qu'il décide de mettre ça.
Puis il commence à gagner.
Exactement. Enfin, pourquoi j'ai l'impression que Annie c'est pas le seul porte-jartel qu'elle a donné à des amants qu'elle a eu dans l'équipe.
Peut-être. Tu sais, mais je veux pas brûler le punch, mais c'est justement, elle a dû dépenser une fortune parce que si, tu sais, l'histoire ne dit pas, le film ne dit pas si c'est que des lanceurs. Qui,
oh,
qu'elle se tape,
je pense
parce
que c'est pas gêné pour les,
non,
toutes les positions
confondues.
Non,
c'est ça, exactement. Hein. Parce que, tu sais, au début, justement, elle annonce ses couleurs par rapport à, j'ai jamais sorti avec quelqu'un qui avait en bas de 250 de moyenne.
Puis
donc
c'est
on,
pas un lanceur qui va faire ça.
Non,
là.
Exactement. Tu sais, un lanceur, habituellement, tu sais, bon, dépendamment, c'est pas en fait tous les lanceurs qui vont batter. Babe Ruth était un de ceux-là qui lançait très bien et pouvait batter.
Écoute, je pense que dans les majeurs de nos jours, je pense que le dernier à avoir canné un circuit, c'était Bartolo Colon à 42 ans, là, tu sais. Pour introduire nos auditeurs, un peu la dynamique entre ce fameux Nucleus et Crash, ben je vous propose leur première rencontre où est-ce que Nucleus ne sait pas vraiment encore une fois que Crash a été embauché par l'équipe pour le prendre sous son aile. Alors, pendant un party dans un bar local, Crash et Nuke, en fait Nucleus,
en fait,
bon,
c'est après le premier match,
tous les deux vont mettre leur visée sur Annie pour essayer de la séduire. Alors là, il va y avoir un combat de coq et les deux vont essayer d'aller régler ça dans la ruelle. Alors, je vous propose cet extrait là où est-ce que les deux gars sont dans la ruelle en train de se confronter pour un petit affrontement mano à mano. Encore une fois, ben, vu qu'une version française est disponible, ben, on va l'utiliser. Elle est un petit peu classique, cette version-là, française, doublée en France, un petit peu comme celle de Spaceballs. Elle a ses fans dont je fais partie.
Slapshot. Il y a des classiques comme ça du cinéma américain qui traduit dans les voix de doublage. Je reconnaissais des gens que j'aimais beaucoup voir. Écoute, le nom m'échappe et je sais que tu vas pouvoir me le dire.
Ça sent bien.
Mais justement, celui qui fait la voix de Crash Davis,
ben,
qui fait
ça.
Souvent le nom m'échappe. Voyons.
Ben, si tu veux, je peux peut-être prendre
oui,
le relais
s'il
là-dessus.
Te plaît.
Ben vous allez ce que Tina essaie de dire, je pense que c'est ça, c'est que vous allez reconnaître les amis le doubleur Patrick Poivé qui fait voilà. Le rôle de Kevin Costner, en fait qui double Kevin Costner, le personnage de Crash
dans
Davis. Lui vous
films.
L'avez entendu souvent,
Bruce
Patrick
Willis.
Poivé, Bruce Willis wow, dans tous les films de Die Hard qui ont été doublés en France.
Salut, c'est John McClane.
Également, vous l'avez reconnu
Tom
dans
Cruise.
Les années 80 et 90, c'est lui qui doublait Tom Cruise,
voilà,
jusqu'à temps qu'étrangement, au début des années 2000, le Tom Cruise soit donné au doubleur qui fait Tom Hanks, étrangement.
Vous me faites vraiment chier, les mecs!
Alors, ben, vous allez être capable de reconnaître Kevin Costner qui parle dans ce film-là avec la voix de Bruce Willis, Patrick Poivé. Alors, on écoute ça ensemble, c'est parti.
Allez, petit, tu m'atteindras pas, tu sais pourquoi? Parce que tu commences à penser, hein? Tu te dis que ce serait très embarrassant de ne pas faire mouche devant tous tes petits copains, ça les ferait sûrement rire aux larmes. Allez, lance-la. J'ai vraiment envie de voir ce bras à $1 million. Pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est les 5 cents que t'as dans le citron.
Oh, laisse pas passer ça.
Vas-y, allez, meurs, vas-y, vas-y.
Ouais,
casse-lui
la gueule.
Foiré.
Coup de circuit.
Tu commences à me faire chier sérieusement. T'as un sacré punch.
Tu sais qui je suis, Crash Davis, ton nouveau receveur, et t'as eu le droit à la leçon numéro 1. Tu penses trop, c'est mauvais pour le jeu.
Oh.
Tu reviens t'asseoir et je te paye un verre.
Une rencontre qui fesse, hein?
Oh non, écoute. Crash sort une balle de son veston, puis défie, dans le fond, Nucleus, dans le fond, de lui lancer sur lui. Il avait déjà catché Crash que c'était quelqu'un qui a aucun contrôle, qui risquait rien. Mais c'est vraiment drôle de voir, justement, qu'il prend tout de suite son rôle au sérieux, parce qu'une des scènes qu'on voit pas en ce moment, c'est que un peu avant ça, quand il a été engagé, dans le fond, pour être la nounou, si on veut, dans le fond, le coach...
Oui, le mentor,
le
carrément,
mentor,
oui.
Tu sais, il dit, justement, au coach, il dit, dans le fond, là, c'est ça que vous voulez, là, c'est comme c'est une nounou qui va le prendre en charge puis qui va y apprendre, tu sais, les rudiments de c'est quoi le baseball. Dans la scène justement avant ça, quand on il voit qu'il donne une entrevue puis ouais, c'est génial, c'est tubulaire, tu sais. Là il fait comme oh mon dieu, tu sais, je me rappelle juste la version anglaise, mais qui dit comme oh mon dieu, on part de loin là. C'est de voir à quel point tout de suite après cette rencontre là, il prend son rôle au sérieux de je le prends en charge, le petit Nucleus, puis je vais en faire quelqu'un. Tu sais, c'est moi, j'aime vraiment cette scène-là, justement, qu'on vient de voir, parce que c'est le prélude à tous les changements qui s'en viennent entre ces deux-là et dans sa vie personnelle aussi avec Annie.
Oui. Là, on a l'air pas mal ces blocs de départ pour être prêt à parler de Crash Davis, justement, le personnage incarné par Kevin Costner. Qui est Crash Davis? As-tu ta théorie là-dessus? C'est-à-dire, comment tu le perçois, toi?
Je le perçois comme quelqu'un qui est ultra perfectionniste, qui va prendre la game au sérieux, qui respecte le baseball. C'est quelqu'un qui, tu sais, on le voit, c'est monnaie courante dans n'importe quel sport. C'est quelqu'un qui veut incroyablement. C'est quelqu'un qui est bon, qui est doué, mais qui est pas nécessairement doté d'aptitude ou d'un gabarit X, tu sais, qui fait en sorte que les chasseurs de tête sportifs vont l'embaucher dans le grand show.
Au niveau majeur, comme,
c'est
oui.
Ça, exactement. Puis, je veux pas encore là, tu sais, comme aller trop vite, mais on apprend plus tard que oui, effectivement, il a fait le grand show puis des affaires comme ça. Mais ça reste nébuleux sur... je parle souvent d'une construction de personnage dans un film, on sait d'où il vient, puis un peu, des affaires comme ça, mais Crash, c'est assez nébuleux, tu sais. Tout ce qu'on sait, c'est que il est vendeur pour Sears, puis que là, il a été repêché pour l'équipe pour justement, tu sais, coacher la louche, mais on n'en sait pas plus. Mm-hmm. Tu sais, on sait juste qu'il a bien fait dans le comment qu'il l'appelle dans le film, c'est que il a fait comme la ligue plus haut ou quelque chose, le grade plus haut, il me semble que c'est ça.
Okay,
mais
ouais.
Mais c'est ça, puis que dans le fond qu'il a été comme démis ou tu sais une démotion si tu veux, qui a été mis au rencor, je ne sais trop pourquoi, parce que ça aussi, en tout cas, si on fait des recherches, je suis sûr qu'on va le savoir, puis je suis sûr que tu vas nous le dire, mais dans le film même, on n'en apprend pas tant que ça sur Crash.
T'sais. C'est un peu comme un genre de mercenaire dans le fond, l'espèce de cowboy solitaire, ouais, qui vient faire un boulot puis qui repart après, tu sais. En fait, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a deux versions de Crash Davis, c'est-à-dire sur le terrain et à l'extérieur du terrain, et il y a une dualité monstre entre ça. Sur le terrain, le gars, il déborde de confiance, il a un match de baseball à l'intérieur de sa main, il comprend les filons d'un match de baseball, toutes les subtilités. Puis le gars, il s'amuse. Tu sais, le nombre de fois où est-ce que tu le vois, il ricane, il sourit, il est en parfait contrôle de la situation, il est en parfait contrôle de ses performances, il sait ce qu'il peut donner sur un terrain. C'est un général dans une équipe, c'est le genre de bon vétéran que moi je voudrais si je me partirais une équipe de baseball 3A.
C'est drôle que, tu parles justement d'un vétéran qu'on veut tous dans notre équipe. Quand on observe un peu qu'est-ce qui se passe dans le baseball, souvent... l'espèce de général dont tu parles, c'est con, mais c'est le receveur.
Tout à fait.
Tu sais, je veux dire, on pense à Gary Carter,
Russell Martin de ce monde.
Exactement,
tout ça,
mais c'est des rassembleurs, tu sais, puis je trouve que justement, ça met en lumière, Crash Davis incarne vraiment ce côté-là.
Pour rebondir encore sur le fait que c'est un leader, même le coach, à un moment donné, de l'équipe, va voir Crash, puis il lui confie, j'ai pas assez mainmise sur l'équipe, j'ai pas assez d'autorité. Il veut juste lui dire en se rasant, tout bonnement, terrorise-les.
C'est
et cette scène-là, elle me fait rire à chaque fois. Le coach le prend au pied de la lettre, prend une douzaine de bâtons de baseball, pitch ça dans la douche. Après ça, appelle tous les joueurs dans la douche. Là, il leur force un savon. Puis après ça, les
le
joueurs...
Le genre de savon que, tu sais, en séries éliminatoires ou hockey, n'importe quel coach, quand ça va pas bien, pourrait faire...
Ah oui, kick une poubelle.
Ah oui, comme dans l'ancien compte, là, le genre qui pourrait...
Non,
mais c'est ça, tu sais, comme qui pourrait... Le speech parfait du coach terroriste
qui
arrive.
Ah ouais, la Scotty Bowman.
Vraiment, vous êtes toutes des nuls, puis tu sais, puis
ça prend la balle,
puis exactement la balle,
attrape la balle, et ça marche pour le reste de la saison. Après ça, le coach ne se plaint plus de son autorité après ça, juste avec un petit conseil de deux mots de Crash qui a juste fait dit en se rasant tout bonnement. Fait que,
ça prouve
encore à quel point ce gars-là est en contrôle de la game, il connaît tout. Ce qui est un peu plus triste, ouais. Par contre, c'est à l'extérieur du terrain hockey. C'est là où est-ce que c'est dramatique pour Crash Davis. C'est le loup solitaire, d'après moi. Même qu'il est légèrement immo avant le temps, parce qu'on voit souvent au cours du film des moments où est-ce que Crash marche tout seul dans la rue avec la musique de saxophone triste. il est seul. Même qu'aussi, quand il parle d'Annie, je le sens. Je sens que c'est un vétéran quand même assez aigri, avec beaucoup d'amertume, parce que lui, je pense que ça le fait chier d'avoir été si temporairement dans le grand show, c'est-à-dire dans les ligues majeures, puis de devoir être réduit à ça. Tu sais, d'être un globe-trotteur littéralement des États-Unis, de se promener de petite ligue en petite ligue.
Mais c'est pour ça qu'on dirait qu'il est pas confiant de ses moyens-là à l'extérieur.
C'est ça. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il manque de confiance parce que lui, c'est un record. Il est sur le point d'être un recordman des circuits.
Et 247.
Annie lui dit que ça va être un exploit formidable. Je suis au courant de ça, Crash. Et quand tu vas l'avoir, ça va être formidable. T'es juste à 20 circuits, tu peux le faire dès maintenant. Puis lui a comme l'air d'avoir honte de ça. Il veut changer de sujet tout de suite. Même si c'est un accomplissement, il a l'air extrêmement d'une grande modestie, mais je sais pas si c'est pour faire pitié ou ça fait partie de son personnage de loup solitaire, mais a l'air d'avoir de la misère avec ça. Je sais pas quel game il joue, mais c'est une personne complètement différente.
Un bout qui me fait marrer, c'est justement quand il sort de chez Annie, puis qu'il dit « je crois en la chatte, en la bite ».
Ah, ça s'en vient, ça s'en vient.
Mais ce bout-là, justement, puis quand il sort, puis son petit « tu sais, en voulant dire « j'ai réussi mon coup de... » Pas que j'ai fait pitié, mais j'ai fait un speech, puis tu sais...
Ça a fait son effet.
Exactement, ouais. Tu sais, mais encore là, tu sais, on voit même, il y a un des bouts quand il revient de leur 12 games.
Ouais, leur voyage sur la route, ouais.
C'est ça, exactement. Puis que Annie attend Nucleus sur son auto, tu sais, bien étendu. Puis
oui.
Je trouve ça extrêmement sexy la façon qu'elle. Ah, écoute,
j'en rêve à toutes les nuits, tu sais.
Même quand il descend la louche, puis qu'il voit Annie, puis que là, la louche se dirige vers sa charmante chérie, puis qu'elle se jette dans ses bras, on voit le regard, tu sais, qui les regarde en voulant dire.
Pourquoi pas moi? C'est moi qui devrais.
C'est ça, comme putain de vénard. Même, il y a une autre scène, justement, quand je disais qu'Annie, elle débarque, puis, tu sais, qu'elle capote, puis que, tu sais, comment ça que tu vas priver la louche de sexe avec moi, puis tout. Mais on voit même là qu'il pourrait, comme, quand elle dit, justement, tu sais, j'ai envie de vous, ben, là, il aurait pu, tu sais, comme, let's go, je vais la frencher, puis
Mais est-ce que ce serait pas un peu aussi insidieux de la part de Crash, c'est-à-dire, moi, je la veux, cette femme-là, genre, Annie, puis à cause d'une superstition de baseball, genre, je vais t'empêcher de la voir parce que je te fais croire la louche que
oui, ben moi, je l'ai cru longtemps. Je l'ai tellement cru longtemps, ça, c'est sûr.
Il y a plusieurs dimensions à ce personnage-là. Ouais. C'est ça qui est formidable. C'est deux personnes complètement différentes à l'intérieur puis à l'extérieur du terrain.
Vraiment.
Alors, à en parler pendant des heures, honnêtement, juste de ce personnage-là, de ce vétéran qu'on pense qu'il n'y a pas de background et qu'on ne voit pas plus tard, il y a plusieurs couches à ça. C'est ça qui est formidable.
De mystère même alentour de lui, tu sais, qu'on n'arrive pas nécessairement à déchiffrer, à part si on faisait des recherches, justement, avec qu'est-ce que le scénariste, le réalisateur a voulu comme sortir de là, mais il sort de nulle part, puis on sait pas d'où il arrive, puis c'est quoi son background, puis fait que c'est très ça ajoute au mysticisme dans le fond du film, tu sais, de voir qu'il y a autant de mystères.
Exactement.
Par rapport
mais
à
ça,
ce
c'est un autre c'est carrément un autre point qui vient enrichir le film. Alors parlant, ben comme je disais, que ça va finir en triangle amoureux les trois ensemble, on peut peut-être voir un peu la première rencontre qu'ils ont tous les trois ensemble après leur petite bagarre dans la ruelle. Annie ramène les deux à la maison. Elle va leur parler justement des règles du jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour être avec Annie, carrément. Alors, elle va leur proposer, elle va mettre carte sur table, elle va mettre les conditions. Comme tu le disais, elle va lancer des auditions pour voir qui va mériter d'être son fiancé pour la saison. Alors, on regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne.
Voilà la règle du jeu. J'ai un nouveau fiancé chaque saison. En général, je mets 2 semaines à me décider. C'est mon échauffement, en quelque sorte, et... Vous me paraissez être les deux parties les plus prometteurs jusqu'à présent. Alors, j'ai eu envie que nous fassions connaissance.
Arrête-jeu. Mais pourquoi c'est vous qui choisissez?
Pourquoi
c'est vous qui choisissez? J'ai bien le droit de choisir aussi. Lui aussi, il a le droit de choisir.
Eh bien, en fait, il n'y a personne sur cette planète qui puisse vraiment dire qu'il a choisi sa destinée. C'est vrai, c'est une question de chimie, de physique, de molécules, d'occasion, d'attraction.
Moi, j'y comprends rien. On va baiser ou on va pas baiser?
Chérie, tu as un réacteur nucléaire en fusion ou quoi? Tu veux que je te refroidisse? Où allez-vous?
Après 12 ans de championnat, je ne fais plus de galop d'essai. Par ailleurs, je ne crois pas que la chimie et la physique peuvent s'occuper des affaires du cœur.
Mais à quoi d'autre peut-on croire?
Moi, je crois seulement à l'amour. À la chatte, à la bite, aux cheveux parfumés des filles, à la quatrième base, à l'effort, au bon whisky et au fait que les romans de Susan Sontag sont un sommet de la littérature narcissique de merde et que Lee Harvey Oswald a agi seul. Et je pense qu'il faut qu'on vote une loi au Sénat au plus vite, interdisant les pelouses artificielles où on se casse la gueule. Je crois aussi à nos points faibles, à la pornographie soft, et je crois qu'il vaut mieux ouvrir les cadeaux le matin de Noël plutôt que la veille au soir. Mais par-dessus tout, je crois à un long baiser humide, un baiser qui durerait 3 jours. Bonne nuit.
C'est renversant.
T'as commencé à en parler un petit peu, mais va falloir parler du gars qui nous a offert ce film-là. C'est scénarisé et réalisé par le réalisateur Ron Shelton. C'est sa première réalisation de plusieurs au cours de sa carrière, et il faut absolument parler de lui. Ron Shelton, lui, ce qui est le fun, c'est qu'autour des années 90 et 2000, s'il y avait un film avec un arrière-plan sportif, tout sport confondu, vous pouvez être sûr qu'il y avait une chance sur deux que ce soit réalisé par Ron Shelton. Écoutez, sa filmographie devant moi, et je vous en nomme quelques titres, ok? Ça va sûrement vous, en fait...
Mettre la puce à l'oreille.
Bon, lui a fait effectivement Boulder Ram, ensuite il a enchaîné avec White Man Can't Jump, Les Blancs ne savent pas sauter.
Il y a eu Tin Cup, il y a eu Cobb, il y a eu, tu sais, les bons ensuite, films de baseball, c'est lui qui les a fait.
Il y a eu Play It to the Bone aussi, dans lequel il a justement fait, il s'est adonné à la boxe. Il y a eu Tin Cup également avec Kevin Costner dans le golf. Et sérieusement, Tin Cup, ce qui est amusant, c'est que Ron Shelton, quand j'avais 11 ans, a réussi à faire quelque chose d'extrêmement rare. Vraiment, il a réussi à me faire m'intéresser au golf grâce à Tin Cup, c'est
et
ça l'idée.
Et à Costner.
Hey, tout à fait. Écoute,
c'est René Russo aussi qui est là-dedans, je
tout
crois.
Tout à fait, oui.
Tu vois, ben, on parle de fantasme féminin, là. Moi, elle, ça l'a toujours été un. René Russo.
Quel fantasme de choix en plus.
Oui, non,
c'est hallucinant.
Vraiment, vraiment.
Mais Ron Shelton, ce qui est le fun, c'est quand on regarde sa carrière vite comme ça. Puis aussi, bon, je voulais juste dire en tant que scénariste, bon, il a aussi collaboré à certains films sportifs. D'ailleurs, il a fait, par exemple, Blue Chip, un excellent film, justement, avec Nick Nolte, qui parle un peu des dessous un peu sales du basketball collégial américain. Très bien aussi, Nick Nolte en pleine forme, c'est vraiment génial à voir cette affaire-là. Puis, Shelton, lui, dans sa carrière, je regarde les films de sport qu'il a fait, il y a toujours une coupe de constantes. Premièrement, ses films ont des toiles de fond sportives. Ensuite, ils réunissent des personnages masculins qui sont dépareillés, qui s'entendent pas très très bien dès le départ, mais qu'à la fin, finissent par bien s'entendre. Aussi, dans la majorité d'entre eux, il va y avoir un triangle amoureux. Des petites Boulder Ram, Les Blancs ne savent pas sauter, Tin Cup aussi, et également Play It to the Bone aussi. Le nom m'échappe, mais c'est un film de boxe avec Woody Harrelson, puis Antonio Banderas, et Ron Shelton a fait jouer là-dedans comme intérêt féminin sa femme, Lolita Davidovich, puis c'est vraiment deux boxeurs qui s'en vont à Las Vegas en road trip avec une fille. Ils vivent des aventures sous fond de préparation de leur combat et de triangle amoureux avec cette fille-là également. Fait qu'il y a vraiment une structure dans le cinéma de Ron Shelton, puis à la fin, bon... au milieu des années 2000, il a délaissé un peu le film sportif pour se tourner vers le film un peu policier, comédie policière. Il a fait, entre autres, Homicide à Hollywood avec Harrison Ford puis Josh Hartnett. Il a fait un truc qui s'appelle Dark Blue également avec Kurt Russell. Il en a fait un aussi qui s'appelle Just Getting Started avec René Russo, d'ailleurs. Mm-hmm. Puis il y a d'autres acteurs connus. Je pense qu'il y a Morgan Freeman dedans, quelque chose de genre. Puis Tommy Lee Jones également, qui retrouve depuis l'époque de Cobb, justement. Ouais. Parce que Shelton, comme tu le mentionnais, a réalisé un film biographique avec Tommy Lee Jones pour...
Il l'incarne magnifiquement.
Ce fameux joueur très controversé, très salaud à l'époque.
Ben oui, il y met ses crampons pour blesser littéralement.
Ah oui, il glissait les pieds devant lui pour voler des buts.
Oui,
c'était
tout
horrible.
À fait. Tu sais, puis c'est arrivé bon nombre de fois à quel point, tu sais, les receveurs de base, dans le fond, un premier but, deuxième but ou un premier but, ils recevaient les spikes dans les quadriceps ou, tu sais, dans les mollets ou quelque chose comme ça parce que Ty Cobb arrivait. Tu sais, c'était un night exécrable.
Puis le nombre de carrières qui a fini de même avec des crampons dans les cuisses.
Exactement. Puis tu sais, moi, Tommy Lee Jones, écoute, je l'ai toujours adoré. Bon, ok, mon amour pour lui, ça date d'un film vraiment stupide.
Attends, lequel, je veux savoir.
Non,
pas
tu
Batman
veux pas.
Forever.
Oui.
Aïe, aïe, aïe. Mais aussi, ce qui est formidable, c'est que, ben, pour réaliser Boulder Ram, Ron Shelton était l'homme de la situation. Parce qu'avant de devenir réalisateur et scénariste, Ron Shelton, lui, c'était un joueur de baseball des ligues mineures, carrément. Alors, on peut vous dire que, bon, dans son scénario, il a mis des trucs qu'il connaissait, ça, c'est bien sûr. Puis aussi, moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'il a amené certaines innovations à la réalisation qui ont changé un peu les films de baseball tels qu'on les connaissait. Écoute, des films de baseball dans le cinéma américain, il y en a depuis que le monde est monde. Puis surtout, entre les années 40 jusqu'au peut-être au début des années 70, l'affaire, c'est que c'est toujours la même chose. C'était un acteur d'à peu près de 50 ans qui jouait un jeune joueur qui avait enfin sa première chance dans les majeures. Mais là, il a introduit deux nouveaux mécanismes qu'on utilise encore tout le temps, tout film de le baseball confondu. Ça s'était jamais vu avant, des scènes de dialogue sur le monticule en entre un lanceur et un receveur. Ça, c'était une des premières fois qu'on voyait ça au cinéma, si c'était pas la première carrément. Et aussi, ben, l'avoir chant pendant qu'un des personnages est au bâton. Parce que je pense qu'il y a un ou deux moments, une ou deux scènes où est-ce que Crash Davis est au bâton. Puis là, tu l'entends penser dans sa tête.
Ouais. Quoi? Il veut en essayer une glissante? Ok. Ça lui en fera une de perdue. Prends ton élan et balaye-lui de la gueule son sourire idiot. Allez, en voilà. En voilà.
Tu l'entends vraiment son raisonnement de frappeur dans
comme
sa
Annie
tête.
Comme Annie pense à Annie. Non, allez, dégomme. Annie, pas Annie. T'sais,
allez, on voit la source. Exactement. Ouais. Ça, en plus, c'était du jamais vu dans un film de baseball, carrément. Fait qu'il a réussi à amener certains nouveaux préceptes dans
c'est
la
drôle,
réalisation.
Fait que ça a été repris aussi dans Field of Dreams.
Ah, c'est clair, absolument.
C'est vraiment... c'est bon. Que, tu vois, c'est quelque chose que j'ignorais par rapport au...
Ben, en fait, regarde, pendant que tu parles de Field of Dreams, on va adresser l'éléphant blanc.
L'éléphant dans la pièce aussi.
L'éléphant blanc dans la pièce,
pour les auditeurs qui nous écoutent, on s'est lancé à un espèce de petit challenge. on connaît Kevin Costner qui, fait des films de baseball, films de sport aussi, pas juste de baseball. Et puis, Sébastien m'a lancé un défi dans le sens où je ne trouverais pas tous les films de baseball dans lesquels Kevin Costner a été impliqué.
Crois-tu avoir relevé le défi?
Oui.
D'accord. Moins de nos auditeurs, on est prêts à t'écouter pour voir si ça a marché. On t'écoute.
Bon. Ben, si on regarde, parce que moi, je suis très perfectionniste, donc on va y aller chronologiquement.
Bon Dieu.
Tout le monde pense que Boulderham est le premier film de baseball dans lequel Kevin Costner a joué. Mais ce n'est malheureusement pas vrai. Il y a eu Chasing Dreams en 1982, où il incarnait le personnage de Ed. Est-ce que c'était finalement ce film-là que tu pensais que je n'aurais pas? Oui ou non?
C'est un effort considérable.
Ok, bon, fait que c'est peut-être pas lui. Ensuite, bon, on connaît Boulderham, qui est sorti en 88. Mm-hmm. Ensuite, il y a Field of Dreams, en 1989, où il joue Ray Kinsella. Je sais pas pourquoi, moi, ce nom-là, je l'adore.
Mon fils va s'appeler de même, moi.
Ray Kinsella, tu sais. Mais ça, c'est un autre film, justement, qui faisait partie de la liste que mon chum m'a donné à visionner. Puis, tu sais, la fameuse phrase, tu sais, build it and he will come. Tu sais, moi, je l'utilise dans plein de sauces, pis qui ont pas rapport, là. Tu sais, je veux dire. Puis en français, c'est, en français, c'est, construis-le, il viendra, ou je sais pas trop quoi, tu sais. J'ai utilisé ça dans vraiment plein de contextes qui ont vraiment pas rapport.
Ça fonctionne à chaque fois.
Ah oui, vraiment. Ensuite, si je ne m'abuse, il y a eu For Love of Game en 1999.
Correct.
Où il fait Billy Chappell.
Lanceur des Tigers de Détroit.
Effectivement.
Là, on s'en vient vers la partie intéressante. Là.
Et ensuite, il y a eu un court-métrage, OK, Field of Dreams 2. Où il joue dans le fond le père, parce que le personnage principal c'est un fermier dans le fond. Ça reprend un peu l'histoire de Field of Dreams, que Ray Kinsella est un fermier, qu'il va bâtir un stade ou un terrain de baseball à même ses champs, puis que bon, ça fait la polémique. Mais dans Field of Dreams 2, il fait le père justement de ce fermier là. Ensuite, tu vois, moi,
C'est là où ça m'intéresse.
Je pensais moi-même que ça s'arrêtait là, mais juste parce que je voulais te prouver wrong, d'essayer de trouver ce que tu pensais que je ne trouverais pas. Ce n'était pas nécessairement l'acteur principal, mais il a été le narrateur du documentaire Fastball, qui est paru en 2016. Après ça, j'avoue que je n'ai rien trouvé d'autre.
C'est un effort absolument considérable, et bravo Tina, ça a été formidable, t'as raison, à 99%.
Oui, mais tu sais, quand je te parlais de performance tantôt,
t'as mis la sauce.
Fait
c'est
que, dans le fond, j'ai un point sans match, ça sans point ni coup sûr, mais pas un match parfait.
Okay. Alors, je vais simplement, ajouter la petite case qui manque à ton tableau, ou à ton casse-tête. 2004, ou 2005, ou 2006, je me souviens plus. The Upside of Anger, comme espèce de petite comédie romantique dans lequel il joue un joueur de baseball retraité s'installe à côté d'une famille un petit peu névrosée qui va ultimement, à force de courage, conquérir la maman de cette famille-là et s'amouracher justement et devenir très amis avec ses deux filles.
Mais on voit pas de scène de baseball.
Non, mais il y a des moments où est-ce que le personnage de Joanne Allen rentre chez lui, puis il y a des caisses de matériel promotionnel, des balles, des cardboard cut-out de lui, des baseballs.
Le pire, c'est que
je
l'ai vu dans la liste de films impliqués du baseball, puis j'étais comme, mais non, je l'ai vu ce film-là, puis on voit pas de scène de baseball.
Il y a pas de scène de baseball, mais il joue officiellement un joueur...
Putain, j'aurais dû m'écouter.
Il joue officiellement un joueur de baseball retraité, quand même. Mais bravo, et pour ça, c'est tout à ton honneur. Malheureusement, j'avais pas le documentaire. Bravo! Donc, voilà, c'est un match nul. Félicitations. Bravo, mais bravo pour l'effort, ça a été très très bien. Alors, maintenant, nos auditeurs connaissent tous les films longs et moyens dans lesquels, ou courts-métrages, dans lesquels Kevin Costner a joué un rôle de baseball. Tout ce qu'il fallait, c'est de jouer d'être un joueur de baseball dans la vraie vie. Chose qu'il a fait d'ailleurs, mm-hmm. beaucoup au niveau collégial et universitaire. Ouais. D'ailleurs, ce qui est le fun, c'est que lui, c'est un vrai joueur de baseball avant de s'être lancé dans la carrière d'acteur. Puis pendant le tournage de Boulder Rams, c'est arrivé plusieurs fois parce que pendant les scènes où il était au bâton, qu'il a canné des coups de circuit carrément super naturellement, chose que beaucoup d'acteurs sont pas capables de faire. Ouais. Écoute, je peux peut-être partir, en fait, continuer sur Ron Shelton, parce que ce qui est le fun, c'est qu'en tant qu'ancien joueur des ligues mineures, dans son scénario, c'est sûr que ça paraît, c'est sûr qu'il a mis des anecdotes personnelles la nuit. Puis moi, ce que je trouve le fun dans la
dont
beauté...
Dont le nom d'Ebby Calvin Lalouche aussi.
Tout simplement, je pense que c'était un serveur ou quelque chose de genre qu'il avait déjà eu dans un restaurant. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans la beauté du scénario de Boulder Rams, c'est que c'est pas seulement une comédie romantique basée sur le même maudit modèle qu'on connaît, c'est aussi un condensé d'une saison de baseball et des coutumes connues chez les joueurs, puis dans tout ce qui entoure vraiment une saison de baseball, admettons à domicile dans un stade. Ben, j'ai quelques exemples que moi je trouve charmants. Bien sûr, il y a les voyages sur la route, les longs voyages sur la
route. En autobus.
Exactement, en autobus, surtout que dans les ligues mineures, t'as pas le luxe d'avoir un charter, un avion, quelque chose du genre.
D'avoir un valet qui prend tes bagages, comme Crash en parle un moment donné dans une des scènes.
Il y a d'autres scènes aussi qui font référence à d'autres choses qui sont usuelles dans le monde du baseball. Il y a les transactions de joueurs. À un moment donné, il y a le coach qui amène un joueur complètement pas rapport, qu'on connaît pas, qui lui explique, bon, on est obligé de te relâcher, tu performes pas très bien, puis le joueur est déçu. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive, qui est monnaie courante autant dans
c'est
le baseball
mineur
que
un autre scène plus
exactement.
Tard.
Au début, c'est ça qui est formidable parce que je l'ai réécouté récemment, puis ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu. Je me souvenais plus de
cette
scène-là.
Scène-là
puis je me disais, mais à quoi elle sert? Puis finalement, c'est une préparation pour un paiement plus tard. Mm-hmm. On va y venir dans quelques instants. Ouais. On garde ça en tête. Aussi, moi, ce qui me fait marrer, c'est les superstitions de joueurs. Puis pour avoir joué à tous les sports professionnels, hockey, football, baseball, rugby, même le sport où est-ce que les joueurs sont le plus superstitieux, c'est le baseball. Fait qu'à un moment donné, il y a un joueur carrément, comme tu le mentionnais, sûrement dominicain, qui lui est avec son baseball, avec sa croix vaudou, qui est en train, genre, de glisser sa croix sur son baseball, sur son bâton de baseball, pour essayer de chasser la mauvaise séquence au bâton qu'il y a. Puis à un moment donné, ça fait,
ce joueur-là que tu parles, que justement, qui se fait, comme, sortir par la grande porte, justement, demande, tu sais, gamme aussi, là, j'ai une mauvaise séquence, tu pourrais
pas,
tu sais.
Mais t'as pas la foi.
T'as pas la foi où tu crois pas au voodoo, tu sais.
Qu'est-ce qui se passe après?
Puis là, il y a une scène, ou je sais pas trop quoi, où est-ce qu'il faut qu'il se revire, puis là, ben, le gars qui se fait virer, tu sais, il pogne son bâton puis il le met quand même sur la croix. Je sais pas si t'as remarqué ça. Là.
Oui, oui.
Tu sais, il y a comme un hit.
Il profite d'un moment d'inattention.
C'est ça. Puis là, tu sais, il met ça puis là, il fait comme une petite face arrogante, genre comme je l'ai eu mon cassage de tu sais, mais ça a pas marché parce
puis
que
même,
bon, la scène d'après se fait renvoyer.
Exactement. Mais il dit quand même, ben coach, j'ai bien frappé la balle ce match-ci.
Si, fait c'est
que
ça.
La croix a marché. Ouais. Même Crash Davis, un vétéran aguerri, va voir ce joueur-là pour lui demander, peux-tu comme genre mettre ta croix sur mon bâton également.
Ouais.
Puis même plus tard, comme tu disais, dans la scène de caucus, et il dit, ah, man, là, ça nous prendrait
un sang de poulet.
C'est un peu un Pedro Serrano en venir, c'est ça. En attendant qu'on fasse le fameux podcast sur Ligue majeure 1 ou quelque chose genre,
Dieu.
Toi et moi, ce serait formidable. Aussi, ben, il y a quoi d'autre aussi? On parle un peu de la vie de Stal. Il y a une scène de promo spéciale parce qu'il y a un hélicoptère qui se tient
avec
sur
les dollars qui sont relâchés.
Pitch des dollars, exactement.
Le
sinon,
clown, l'amuseur public, dans
exactement,
le fond.
Exactement, d'ailleurs, qui est
la...
joué par Max Pankins, qui est vraiment un vrai amuseur public de Stal, qui
fait.
Est une légende carrément, qui était connue carrément comme le prince des clowns du baseball aussi. C'est très amusant. D'ailleurs, je pense qu'il porte une casquette des Expos
tout
trois
à fait.
Couleurs.
Oh,
c'est
ouais.
ça qui est amusant dans Boulder Ramp. Puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont rendu hommage au bon vieux annonceur radio qui, pendant que l'équipe était à l'extérieur, ben, l'annonceur radio de l'équipe pouvait pas aller dans les stades adverses. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il recevait les résultats des matchs puis des jeux du match par une espèce de télégramme ou un télex.
Ça m'a vraiment surpris, cette scène-là. C'est drôle que t'en parles puis que t'en viennes là. Tu sais, on parle de choses que tu remarques pas. Puis j'avais pas remarqué, justement, tu sais que il fait même le bruitage,
il fait les effets sonores,
il fait le
puis
bruitage.
Il appuie sur un bouton puis ça
puis c'est vraiment le voir que comme je te dis, un first, que ça soit à la radio puis que ça soit télégraphique, tu sais, que, ah,
c'est
ok, il y a eu un coup sûr, ah, ok, il y a eu, tu sais, comme, c'est un but sur balle.
Que le descripteur fasse le bruit
fasse
d'un
bruit
bâton.
Le bruit du bâton, puis écoute, puis il est vraiment précis parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais justement, quand c'est un coup de circuit, le puck est beaucoup plus...
Ah oui.
Ah non, non, écoute, moi, j'allais remarquer, là, ok? Le puck est beaucoup plus, comme, feutré. On voit que ça a vraiment pogné le centre du bat pour vraiment revirer ça, là, qui t'a canné ça dans les estrades. Alors que quand c'est un amorti ou quelque chose, il fait vraiment comme un bruit plus clair,
plus sec,
tu sais. Wow. C'est magnifique.
J'avais pas remarqué ça,
oui.
Mais ça me prouve à quel point c'est un annonceur aguerri. Non,
oui, voilà.
Ça. Donc, c'est ça qui est beau, parce que quand on regarde, en fait, Boulder Rams, c'est une lettre d'amour au baseball.
Baseball.
C'est ça qui est formidable. formidable, puis ça a été fait, encore une fois, scénarisé et réalisé par un joueur qui connaît cette game-là, qui a tout vécu ça. Alors, on peut pas être dans des meilleures mains d'un créateur qui veut nous parler de baseball que ce gars-là, honnêtement. C'est ça qui est formidable.
Tu sais, tantôt, je parlais justement que pour connaître vraiment un sport, faut l'avoir vécu, faut avoir été dans le bain de la chose, tu sais, faut avoir soi-même joué à quelque chose, puis Ron Shelton, ça paraît. On parlait justement, oui, des anecdotes de sa propre vie qui a ramené. Je trouve justement que l'essence même, le Church of Baseball, littéralement, ça se reflète dans ce film-là, puis ça paraît.
C'est
là,
ça, puis c'est montré avec amour, avec respect.
Ah oui, vraiment.
Moi, je pense que dès qu'on a terminé ça, je pense que je vais me taper un programme double. Je vous invite à faire à la maison. Tapez-vous Boulder Ram, tapez-vous également Tin Cup après. Alors, les deux films avec Kevin Costner, puis moi, je vais boire tellement de Porto, je vais me mettre dans l'état mental que, genre, les deux personnages dans les deux films joués par Kevin Costner, c'est Crash Davis puis c'est recyclé au golf, carrément. Ce serait formidable.
Tu ris, hein, mais quand j'ai vu Tin Cup pour la première fois, en fait, ça a fait... Puis surtout qu'il y a de l'air de la même chose.
Ah, là, littéralement, il est pareil, là.
Tu sais, il est pareil. Puis là, je me suis dit, ouais, ben finalement, justement, après son 247e circuit, on sait pas vraiment comment se termine l'histoire de ce film-là. Ça reste très ouvert comme fin. Fait que quand j'ai vu Tin Cup, je me suis dit, et voilà, c'est ça la réponse, dans le fond.
Il était jouer au golf. Voilà, la PGA, c'était ça. Je suis pas capable d'aller dans les majors de baseball,
Fait que je me suis dit, tu sais, le swing au golf, le swing au baseball, c'est pas si loin un de l'autre.
C'est peut-être ça qui a fait le succès du personnage dans Tin Cup, ben, c'est-à-dire voilà, les attitudes de joueurs de baseball.
Exactement, tu sais, donc, peut-être ça, dans le fond, la réponse à l'espèce de question en suspens qui demeure à la fin du visionnement de Bonderham.
C'est ça, maintenant, pour moi, Tin Cup, c'est une suite non officielle à Boulder Ram. Parlant de le prochain point que je veux amener, t'en as fait mot il y a quelques instants, mais c'est quelque chose que moi, genre, je me suis mis à penser. Puis ce qui est drôle, c'est que je me suis réveillé un matin, j'ai écouté Boulder Ram pour me remettre dedans. Puis le lendemain matin, j'étais comme entre le sommeil puis un état réveillé. Puis là, je me suis mis à penser un peu à ce film-là. Puis à un moment donné, je suis venu avec une théorie vraiment bizarre, mais que le film confirme pour moi. C'est qu'on dirait que la ville de Durham, elle est figée dans le temps, parce que le film se passe clairement dans les années 80. Il y a des preuves de ça auquel on va venir, mais écoute, la ville, puis l'équipe, puis l'entourage, les gens de Durham ont l'air carrément figés dans les années 50. Ça se voit par plusieurs choses, ça se voit par les vêtements des habitants. Tu mentionnais la scène où est-ce que l'équipe des Bulls revient d'un long voyage sur la route, ensuite Nucleus descend dans l'autobus,
et Annie, la voiture d'Annie,
Annie, c'est une vieille coccinelle des années 50, et Annie, elle est habillée vraiment également comme dans les années
50. Un peu pin-up, tu sais,
exactement, le fichu sur la tête, les lunettes pointues, fumées sur
le petit short court, la chemise, tu sais, très 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 pin-up, là, justement.
Puis aussi,
des
Annie,
là,
chez elle, quand elle écoute une game de baseball, il y a pas de télévision ni
non,
rien,
c'est la radio.
À la radio, même l'autobus des Bulls de Durham, ça a l'air de sortir des années 50. Il y a plein d'affaires de même, justement. Les seules traces de modernité dans le film qui nous montrent vraiment qu'on est des années 80, c'est Nucleus, c'est la louche,
la façon qu'il est habillé, c'est ça, la Porsche de Nucleus,
la
aussi.
Porsche, effectivement. Mais il y a aussi à deux moments précis, Nucleus va porter des t-shirts de band.
Oui.
Il part
Iron Maiden,
et
mon
aussi, après ça, dans une autre scène où est-ce qu'il rencontre Crash, puis il se fait prendre avec le porte-artière, il porte un t-shirt de Motley Crue.
Oui.
Alors, ça...
D'ailleurs, cette scène-là, elle est particulièrement adorable.
Ben, parlant de son plan, Annie, en fait, des efforts que Crash et Annie ont dévolu envers Nucleus, carrément, ben, ça finit par payer, parce que, ultimement, avant la fin de la saison, Nucleus est rappelé par le club des majeurs pour venir finir la saison-là. On voit que c'est un moment où est-ce que Annie et Crash pourraient célébrer, parce que leurs efforts qu'ils ont mis là-dedans finissent par payer. Et moi, une des merveilleuses scènes que j'ai redécouvert en réécoutant La Belle et le Vétéran, Boulder Ram, j'avais oublié cette fameuse scène-là des adieux entre Annie et
la louche.
Parce que
là, ça se rend compte, tu sais, que c'est là, on se sépare.
C'est
mais...
ça. Puis cette scène-là, elle est merveilleuse, parce que ce qui est drôle, c'est que après avoir perdu, que la fameuse série victorieuse soit terminée, il y a la louche qui amène son père chez Annie pour la faire rencontrer. Puis là, ce qui est amusant, c'est que le coach appelle directement chez Annie pour annoncer à Nucleus qui est rappelé par les majeurs. Et là, à un moment donné, il y a une magnifique scène parce que bon, Annie met la porte,
son
père lui dit
ça,
bon, dans un instant, puis les deux ont un moment, un en face de l'autre.
C'est un des moments, je trouve, les plus intimes qu'ils ont du film ensemble.
Il y a un non-dit incroyable à lui dire tout simplement, on va se retourner dans les majeurs, fait que ben bye, c'est ça. Puis lui, il dit, ben non, je vais revenir demain, il n'y a pas de problème. Mais elle lui fait comprendre que son œuvre est terminée en ce moment. Elle l'a aidé à avoir
de
la confiance
là,
et les capacités
ça,
pour qu'il devienne un professionnel carrément. Puis je suis pas sûr maintenant que la louche va revenir dans les mineurs maintenant. C'est ça l'idée. À un moment donné, il y a la louche qui comprend ça et les deux font juste se regarder. Il y a un beau non-dit dans lequel il y a un respect. Ils se disent merci, mais juste en se regardant. regardant. Et je la trouve merveilleuse. C'est un moment d'acting incroyable entre les deux. Il y a une belle complicité. Sûrement que...
Moi, je suis sûr que c'est là qu'ils sont tombés en amour.
C'est ça que j'allais dire. Exactement ça que j'allais dire. Qu'il a fait... Man, j'aime cette femme-là.
Ah,
quelle
ouais,
actrice
mais
elle
ça
est.
Paraît... Moi, écoute, c'est drôle que t'en parles parce que...
On parle
que...
de chimie, là,
ah,
c'est
ouais,
ça,
exactement. Ouais. Tu sais, des fois, la façon que... Il y a un proverbe très beau pour dire ça, c'est que le silence est d'or, la parole d'argent, tu sais. Il y a une toune que nous, on aime beaucoup de Depeche Mode, tu sais, que... Oui. Words are very unnecessary, tu sais. Mais c'est ça, le regard qui s'échange est tellement plein de... Tu sais, de respect, d'admiration mutuelle, de...
Ah, c'est un merci, c'est le
écoute,
plus beau des remerciements.
Comme je te dis, là, je suis sûr qu'ils ont pas eu besoin de faire beaucoup de cuts sur cette scène-là,
ah,
que ça a été first take, puis que c'est là qu'ils sont vraiment faits comme... OK, on tombe
chose...
en amour, il y a quelque chose
se voit après la... On se voit après le tournage.
Après le tournage.
Parce qu'après ça, pour revenir dans le film, Nucleus s'en va paisible. C'est pas qu'il vient comme de se faire plaquer par
non,
sa copine, quelque chose de genre. Il comprend que elle a fait justement ce qu'elle devait faire avec moi. Maintenant, je m'en vais ailleurs et cette femme-là, je vais la garder près de mon cœur tout le reste de ma vie parce qu'elle m'a aidé à monter dans les majeurs carrément. En tout cas, en faisant sa propre magie, en étant Annie carrément. Mm. Et ça, c'est merveilleux. Un des plus beaux moments de séparation amicale que j'ai vu dans l'histoire du cinéma. C'était ça. Puis ça vient d'un film de baseball.
Oui, exactement. Tu sais, puis
c'est ça.
De mon vivant, là, à 37 ans, je ne pense pas avoir vu une séparation aussi amicale et, tu sais, comme easygoing et zen, tu sais, de, regarde, on s'est donné mutuellement du bon temps, on s'est, tu sais, Annie, je t'ai amené là, puis tu sais, mais jamais j'ai vu ça d'un film de sport qui
ça,
nous
mais
amène une scène
faut pas oublier
ça,
que c'est une comédie romantique aussi, fait que le moment romantique, tu l'as là,
et
voilà. C'est un des plus beaux. Ouais. Tu sais, puis écrit par Ron Shelton, en plus, c'est ça qui est hallucinant. Alors, en tout cas, il a compris comment faire le parfait amalgame de moments humains, d'amour et de moments de sport. C'est hallucinant. L'affaire aussi, c'est que cette victoire-là de Crash et Annie, d'avoir amené Nucleus, la louche, dans les majeurs, ben, a un prix, ultimement, où est-ce que les deux vont devoir payer Annie et Crash. Parce que c'est à ce moment-là où est-ce que ça fait un 180 degrés dans la confiance de ces deux personnages-là. En fait, regardez, je tomberai pas dans le moment triste tout de suite. On a un extrait à regarder. Je vais vous montrer, chers auditeurs, le moment des adieux, où est-ce que Nucleus est en train de prendre tous les effets personnels de son vestiaire et se prépare à partir. Et il va être rejoint par Crash qui va lui donner sa bénédiction, lui faire ses au revoir à sa manière.
Mais avant l'extrait, je veux juste préciser que juste la scène tout juste avant celle qu'on va entendre.
Ah, celle du bar, c'est ça.
Oui, exactement. C'est que, dans le fond, Nucleus sort de chez Annie, tout zen et tout content et tout, puis il veut aller retrouver Crash pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et là, Crash a entendu lui aussi la nouvelle et il est en train de se saouler la gueule dans un bar miteux que d'ailleurs, fait anecdotique, le bar dans lequel que c'est tourné est encore exactement de la même façon qu'aujourd'hui, au moment du tournage. C'est dans les fun facts to know about Boulderham que j'ai appris en faisant mes recherches. C'est un bar de la Caroline du Nord qui est encore intact avec... tout ce que ça comporte dans le quand le film a été tourné.
Ça a gardé le cachet d'origine.
Ah oui, non, tout à fait, tu sais. Puis justement, dans cette scène-là, c'est que, bon, Crash, tu sais, comme désinvolte, même désintéressé, on voit très bien que ça lui fait mal.
Ah, oui.
Tu sais, autant de perdre la louche qu'il sait très bien que, connaissant la game comme il la connaît, que son rôle dans l'équipe va totalement changer aussi, tu sais. Donc... voilà.
C'est ça. Et aussi, je peux pas m'empêcher de croire qu'il y a un peu de jalousie encore une fois.
Ah, ben oui. Puis lui dit, justement, dans la scène dont je parle, t'as un don. Moi, j'aurais donc aimé ça, avoir ce genre de don-là par rapport à son bras, tu sais. Puis, tu sais, comme je te dis, il est tellement pacté, tout Crash, que tu sais, à un moment donné, il pogne son bras, puis il dit, regardez, c'est le bras à $1 million, tu sais. Mais, justement, on voit que, oui, il y a une jalousie, mais il y a une certaine, comme, nostalgie de, j'aurais aimé ça faire les ligues majeures avec ce genre de don-là, chose que il ne dispose pas, contrairement à la louche.
Exactement, fait que ça fait encore partie des éléments dont je parlais du Crash Davis à l'extérieur du terrain. Exactement. Très émo,
oui.
Parce que c'est ça, il s'en va, il est un petit peu autodestructeur aussi avec l'alcool.
Avec l'alcool.
Alors en effet. Donc je parlais d'un extrait. Alors on va regarder un peu les adieux entre ces deux personnes là, où est-ce que on se rend compte que les deux ont pas été capables de se sentir pendant la saison, mais là qu'il y a un respect mutuel qui s'est développé entre les deux. Alors je vous laisse en être témoin, chers auditeurs.
Écoute. Les champions de la Ligue sont pas des enfants de cœur, ils vont sûrement t'en faire voir de toutes les couleurs. Mais ne t'en fais surtout pas. Emmerde-les tous et reste arrogant même quand tu te feras battre. C'est ça le secret. Tu dois combiner à la fois peur et arrogance.
Peur et ignorance.
Non. Peur et arrogance. T'es bouché ou quoi? Est-ce que j'ai dit ignorance?
Je sais, je sais. C'est rien, j'avais envie de te chambrer un peu. Écoute. Merci. Merci pour tout.
Nucleus. Bonne chance.
À toi aussi. Petit.
Comme je disais, le baseball peut être une maîtresse cruelle parce que l'équipe de Durham a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de faire que en fait ce son bijou brut, son lanceur, ait une promotion dans les ligues majeures. Mais le problème, c'est que maintenant que le joueur est monté, celui qui l'a aidé à monter n'est plus nécessaire dans l'équipe. Alors, pour faire le lien avec la fameuse scène où est-ce qu'un autre joueur se faisait libérer plus dans la saison, Crash Davis se fait amener dans le bureau de l'entraîneur qui lui annonce qu'il est libéré. Maintenant, comme une vieille chaussette, t'as fait ce que t'avais besoin de faire. Maintenant, on n'a plus
besoin. Il y a un moment dans
toi.
La vie d'un entraîneur où il y a des choses qui sont pas faciles à dire. Genre, il reprend exactement le
c'est
même
ça.
Discours.
Puis pourquoi j'ai l'impression que ça fait genre, c'est la 10e, 20e fois que Crash Davis se fait dire ça. Puis c'est ça qui contribue à son amertume, dans le fond, que j'ai fait de mon mieux. Même que dans cette saison-là, il a non seulement aidé Nucleus à graduer dans les majeurs, mais il a une excellente saison aussi, dans le fond. Et l'équipe veut même pas le garder pour ça, au moins pour finir la saison. Alors, c'est tellement cruel. Alors, Crash va devoir reprendre son sac, le remettre sur son épaule, essayer d'aller se faire engager ailleurs. C'est ça qui est très, très triste pour finir la saison. Et, comme étant ce fameux loup solitaire-là, et Nucleus n'étant plus dans le portrait, c'est le moment idéal pour que Annie et Crash finissent par concrétiser ce qui est en train de se passer pendant tout le film. Pendant tout le film, les deux se tournaient pas mal autour. Il y avait une espèce de petit jeu d'attraction-répulsion entre les deux.
Ben, t'sais, justement, quand elle dit qu'elle a envie de lui, puis que, tu sais, on voit très bien qu'il est un peu jaloux de la louche, que, tu sais, comme tantôt je parlais, que quand il débarque de l'autobus. Fait qu'effectivement, comme tu dis, tu sais, il y a une espèce de papillon,
Il y a une game qui joue entre deux professionnels des jeux de séduction.
Ah, ouais,
alors finalement, les deux ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher, si on veut. C'est-à-dire, Annie a perdu son amant pour la saison. Donc, ses repères sécurisants sont partis. Crash a perdu son but d'être avec l'équipe, c'est-à-dire la louche qui est montée chez les pros. Alors là, les deux, ont des blessures à lécher, littéralement, comme des loups solitaires. Alors, les deux vont finalement se retrouver, consommer carrément, c'est-à-dire briser cette fameuse tension qu'il y avait avec les deux. Puis ce qui est drôle, c'est que dans mon souvenir, ça durait plus longtemps que ça, mais dans le film, on dirait que c'est juste une nuit qu'ils ont passé ensemble carrément à travers certaines scènes.
Oui,
ou une journée ou je sais
ça,
pas,
moi
mais
aussi, d'après moi, oui. ma version des choses, c'est que ça dure 3 jours.
Ah oui, okay.
Comme quand Crash dit je crois en la bite, en la chatte et en un long baiser de 3 jours.
Ah, peut-être,
d'après moi, ça dure comme un week-end leur affaire, puis justement quand il s'en va après ce week-end là, justement de s'être consommé à fond et la scène du bain, on s'entend.
C'est hallucinant.
Et moi, juste quand il se rapproche, puis que d'un tournement, d'un coup de pouce, il défait le porte-jartel d'Annie.
Et Annie de dire
« renversant ». Ça, d'ailleurs, elle le dit souvent dans le film, puis moi, c'est... Mais en anglais, c'est « oh my ».
Oh my.
Mais ouais. J'aime mieux le « renversant ».
Mais moi aussi, juste...
D'après moi, mon analyse, comme je dis, c'est ça dure 3 jours, et après ça, il repart sur la route, sans vraiment, tu sais, comme dire pourquoi. Puis Annie, tu sais, on disait tantôt que c'est pas juste une groupie, c'est une experte du baseball. Donc, elle comprend l'état d'âme dans lequel Crash doit se sentir maintenant d'avoir été comme balayé, parce que quand il a été balayé, il va la voir elle en premier, tu sais, c'est ça. Puis elle arrive, puis elle dit « je le sais déjà », tu sais, fait qu'elle lui en tient pas rancune, elle en tient pas rancœur d'être partie, parce qu'il lui laisse un mot de poésie, tu sais, pour justement aller chercher. Puis elle dit « au moins il m'a laissé un déjeuner, ce salopard », ou quelque chose comme ça, tu sais, parce qu'il a laissé une pomme avec le mot qu'il a laissé avant de partir, tu sais. Puis c'est ça, avant le dernier extrait que je sais que tu veux qu'on voit, tu sais, il va aller l'atteindre, son fameux 247 circuit dans les ligues mineures.
Ce qui est triste, c'est que c'est dans l'anonymat, c'est ça.
Exactement, puis tu sais, c'est comme, il y a juste elle qui le sait dans le fond que ce record-là a été battu. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, on parle du 247 home run dans les ligues mineures, mais en 2015... Il y a monsieur, un joueur de balle, évidemment, qui s'appelle Mike Esman, qui jouait pour les Toledo Mud Hens. Il a atteint le faramineux nombre de 437.
Dans les mineurs?
Dans les mineurs, wow. En 2015.
Puis, ben, comme tu l'as mentionné, à la fin de leur petite île, on va dire pour les besoins de ce podcast-là de 3 jours, 72 heures, Crash repart et se fait engager par une petite équipe d'une ligue boboche, quelque chose de genre, il atteint son fameux record des mineurs. Annie, elle, de son côté, ben, elle continue un peu d'arpenter les stades sans vraiment jeter son dévolu sur un autre joueur, mais elle continue à être là pour sa passion du match. Et une fois la saison terminée, ce qui va se passer, c'est qu'en revenant d'un match, Annie va trouver Crash de retour sur son balcon qui l'attend. On va regarder cette séquence-là ensemble, plutôt cette scène-là ensemble, puis après ça, je veux qu'on parle de la fin du film. Parce que moi, j'ai en regardant pour la première fois depuis longtemps cette scène-là, j'ai trouvé cette fin de film-là beaucoup plus ouverte qu'on pourrait le penser. Alors, on va en discuter un petit peu, mais avant, je veux vous mettre dans le bain, chers auditeurs. On écoute notre fameuse retrouvaille entre Annie et Crash, et c'est parti.
Que s'est-il passé?
Je suis parti. J'ai battu le record et j'ai raccroché.
Je raccroche aussi. Les hommes, je veux dire, pas le baseball.
Il y aura peut-être un autre poste pour un entraîneur à Visalia dans 3 mois. Je crois qu'on me prendrait dans le show si je deviens entraîneur.
Tu serais parfait. Tu es fait pour ça. Tu serais parfait, tu as un genre de pensée non linéaire. Et je crois que, je veux dire, enfin, le baseball ressemble à un jeu linéaire avec toutes ses lignes et ses marques.
Annie?
C'est ce qu'on croit, mais en fait, ça inclut un espace qui est non temporel quand
Annie?
La balle est...
Tu as tout le temps pour développer tes théories. Et je veux les entendre toutes, j'y tiens beaucoup, mais... Je suis très fatigué, je crois que j'ai envie d'oublier un peu le baseball. J'ai envie aussi d'oublier la chimie, la physique. Et j'ai envie aussi d'oublier tout le reste, je veux juste... Je veux seulement vivre.
J'ai une théorie là-dessus.
Très belle scène que j'aime beaucoup et que, comme je le disais, je la trouve ambiguë. Je trouve la fin beaucoup plus ouverte qu'on pourrait le penser. Parce que normalement, ce film-là se serait terminé avec un long baiser entre les deux. Le plus
Happy
beau
ever
baiser,
after.
Exactement, heureux jusqu'à la fin des temps. Mais non, ils finissent juste par danser ensemble. Ils rentrent à la maison chez Annie. Ils dansent comme ils l'ont fait ensemble devant son fameux hôtel dédié au baseball. Ultimement, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Crash et Annie finissent vraiment ensemble, c'est-à-dire dans une relation amoureuse? Ou est-ce qu'ils finissent ensemble dans une relation purement platonique? Ou est-ce que les deux vont être un rempart de l'autre vers une reconstruction? Et je m'explique. Parce que moi, je suis plus le fan de la théorie parce qu'ils ne finissent pas ensemble, d'où peut-être le génie de Ron Shelton que s'il a voulu faire une comédie romantique complètement atypique, ou est-ce que les deux ne finissent pas ensemble, mariés avec 10 000 enfants dans un beau château. C'est une romance moderne à quelque part, parce que les deux vont prendre leur temps. Parce que on voit Annie et Crash qui se rencontrent sur la véranda de chez Annie. Les deux sont à un point extrêmement bas dans leur vie. Les deux ont perdu leur repère sécurisant ainsi que leur certitude dans la vie. Annie, elle le dit, les hommes pour moi c'est terminé, mais je garde le baseball avec moi comme seule passion dans ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé, on dirait qu'elle a grandi, on va y venir tout de suite après. Et Crash, lui, dit, je vais oublier le baseball, je vais juste focusser sur vivre. Parce que Crash, pendant X nombre d'années, le baseball a été le centre de sa vie, et là, il veut apprendre à vivre différemment. Aussi, ce qui a joué dans la tête d'Annie, à mon sens, sur le fait qu'elle veut dire adieu aux hommes, c'est que il s'est passé quelque chose dans une de ses certitudes qui a été complètement écrabouillée, c'est-à-dire le personnage de Millie. Millie, on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est une proto-Annie, c'est une des très bonnes amies d'Annie, qui a peut-être la moitié de son âge, qui est une groupie aussi des joueurs des Bulls de Durham, mais qu'elle fait complètement le contraire d'Annie. Elle, Annie, c'est, elle prend un joueur pour la saison, après ça, elle le laisse aller à la fin de la saison, mais Millie, elle, c'est un joueur par match.
Elle a couché avec tous les joueurs, mais elle finit par se marier avec
le plus straight de la gang.
Le plus straight qui est
le religieux.
Le religieux, le prêtre de la gang.
C'est ça, celui qui tient un service religieux avec sa Bible à tout avant chacun des débuts de match.
Oui.
Alors, elle termine, elle décide de mettre fin à cette vie
de débaucher.
De volupté, un petit peu comme tu le dis.
Pas de débaucher, parce que j'aime pas ça, parce que c'est justement,
le terme est un peu fort, c'est ça.
T'sais,
en fait, de femmes.
De libertines qui vont consommer la sexualité comme on consomme des bonbons.
Comme c'est ça, exactement. Puis c'est son king, c'est son trip, elle a le droit, absolument aucun jugement là-dessus. Et là, ultimement, qu'elle se marie avec le gars le plus straight de la gang pour rentrer dans un moule. Parce
ça
que
a dû fesser Annie, pareil. Ben, on le voit dans une scène, justement, tu sais, comme elle est en train de raccommoder, justement, un bout de la robe de Millie, tu sais. C'est justement le match où est-ce que la louche perd, d'ailleurs.
Oui, puis Crash se fait éjecter après avoir insulté l'arbitre, le pire match de sa carrière.
Exactement, ouais. Puis que, tu sais, vraiment, il engueule l'arbitre. Puis c'est là qu'on on reconnaît, justement... la voix de Bruce Willis en français qui pète une coche, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, elle est en train de, justement, d'ajuster la robe de mariée de Millie, puis tu sais, elle lui demande, tu sais, combien de temps vous vous êtes fréquenté, tu sais, avant de vous demander en mariage? Puis elle fait, un gros 5 heures. Puis elle lui pose la question, comment tu peux être sûr, puis des affaires comme ça, puis elle a juste dit, Je le sens comme ça. Ça aussi, ça l'a dû jouer un peu dans la tête d'Annie. Tu sais, on parlait de perdre ses repères.
Parce qu'elle perd un allié, en effet.
Ben, aussi, effectivement, elle perd un allié, mais elle se dit, mais moi qui est éphémère à toutes les saisons, qui change, tu sais, de fiancé ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui fait en sorte que Millie, elle a une certitude béton par rapport à tu sais, au choix de son mari, puis que Annie, ben, tu sais, là, elle, comme tu dis, elle perd ses repères, puis elle
est-ce que c'est la dernière de sa race, Annie, là-dedans, de ce t'sais. Mode de, est-ce que son mode de vie est contraint à s'effacer avec le temps ou quelque chose, avec les nouvelles générations de joueurs, comme tu le mentionnais tantôt, est-ce qu'elle réalise que son époque est révolue ou commence à être révolue? Donc, d'après moi, c'est peut-être pour ça qu'elle se dit, pour moi, les hommes, in extenso, les joueurs de baseball, c'est terminé et je vais juste me focusser sur le sport. Dans le fond, fait que c'est là où je disais que l'arc des personnages, autant de Crash que pour Annie, ça part de personnes extrêmement confiantes en elles, au sommet de leur capacité, vers une reconstruction totale, vers ils n'ont plus rien comme certitude, ils vont devoir se reconstruire graduellement dans la vie réelle et non mais pas dans aussi, grâce à l'univers du baseball.
Tu sais, on regarde un peu, c'est peut-être un peu en avant de son temps. T'sais, tantôt, tu parlais de un anti-film, tu sais, ou un anti-concept, un anti-film. À la
Eric
RBO.
Eric Hémoglobule.
Eric Hémoglobule. Mais,
Eric! Ça serait vachement chouette!
Un film à télé.
Vous excuserez l'interview d'RBO, c'est ça qui arrive quand on...
Oui,
on
je dois des royautés à Guillaume Lepage pour ça.
Et moi sûrement à Landry, parce que ouais, je me prends beaucoup
c'est
pas
ça,
mal.
Guillaume, je viens de porter ton chèque dimanche. Okay?
Moi, je crois justement, oui, à la reconstruction, chacun dans leur vie personnelle, mais aussi, je crois au fait que, tu sais, tantôt, tu parlais de, pas la béquille d'un puis l'autre, mais tu sais, que les deux allaient comme être le comment je pourrais dire ça? Le contrepoids, tu sais, ou dans, justement, dans les incertitudes qu'on a, tu sais, qu'elle allait être là, un pour l'autre, tu sais, puis justement, dans la scène, la scène de la fin, juste avant qu'il commence à danser, on voit Annie, que, tu sais, qui est assez émotive quand elle dit, hey, tu serais super bon en tant qu'entraîneur. On l'a vu, justement, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec la louche. Tu sais, comme dans la scène, quand il dit, oh, tu sais, moi, je veux pas penser au baseball, je veux juste, comme, vivre. Est-ce que, ultimement, tu sais, c'est nécessairement avec Annie? Non, je n'y crois pas. Mais, elle est, tu sais, ça peut être, tu sais, pour reprendre des termes actuels de relationnels, ça peut être une friends with benefits, ça peut être juste comme une partenaire de whatever, mais c'est quelqu'un qui ultimement va énormément comprendre Crash, et à l'inverse, Annie va être compris par Crash. Je crois au fait que ils vont graviter dans la, tu sais, dans la vie de un et de l'autre, parce que la ville qui parle, que justement qu'ils vont engager quelqu'un, oui, mais c'est pas tellement loin de Durham, de ce que j'ai lu dans les fun facts là. Donc, tu sais, ça serait pas un enjeu pour qu'ils se voient souvent quand même s'ils étaient coach. Je crois beaucoup à ce qu'ils vont être présents, tu sais, dans mes hypothèses de fin de whatever, et non pas de Tin Cup, mais parce que c'est pas la bonne femme anyway, mais c'est vraiment qu'ils vont rester présents dans la vie d'un autre, mais sans nécessairement devenir un couple, parce qu'on voit que c'est très amical la façon qu'ils dansent devant, comme tu disais, d'hôtel de trucs que Annie a de baseball. On voit que c'est très amical, on voit que c'est très festif, tu sais, fait que c'est juste un espèce de ode à la vie, tu sais, de ce qu'ils ont vécu, puis garde, it goes on with that, mais moi non plus je crois pas.
C'est ça, je pense qu'ils vont aller avec le flow, mais encore une fois, je parlais de karma, c'est-à-dire Nucleus a été là au bon moment.
Ouais.
Ben, je pense que ces deux-là, Annie et Crash, sont là au bon moment aussi. Le karma est bon pour eux autres et les deux vont amorcer mutuellement leur processus de reconstruction jusqu'à temps que Crash devienne un joueur de golf de PGA.
Puis qui décide finalement de se matcher avec René Russo, et là, voilà. Et voilà.
Tu sais, un programme double, les chers auditeurs, genre, belle
tu vois qu'on voit que ses patterns se défont pas parce que là aussi, il y a un triangle amoureux, tu sais, c'est comme, oh là là.
Tina, on arrive déjà à la fin de notre épisode, mais je peux pas te laisser aller, non plus laisser aller nos auditeurs sans notre fameux segment « Savais-tu, Tina? »
Ouais.
Encore une fois, j'explique pour ceux qui se joignent à nous, le segment « Savais-tu? » Ben, c'est tout simplement dans lequel je vais révéler certaines anecdotes sur les tournages du film ou certaines anecdotes de production, donc qui sont toujours amusantes à connaître. Alors, on y va ensemble.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas me laisser répondre si je le sais ou non?
Ben, dis oui ou non, peu importe. Allez, c'est toi qui décides. Alors, on y va. « Savais-tu, Tina? » Que l'acteur Kurt Russell a aidé Ron Shelton à développer le scénario du film et il était pressenti pour incarner le rôle plutôt de Crash. Mais ça s'est pas concrétisé. Après avoir vu la version du film, Russell a tellement été impressionné qu'il a écrit une lettre de félicitations à Costner et à Shelton.
Tu vois, je savais pas pour la lettre. Je savais que justement, il avait été auditionné pour le rôle, mais je savais aussi pour le... qu'il y avait collaboré justement à l'élaboration, mais la lettre, ça m'étonne vraiment beaucoup.
C'est ça, parce que Kurt Russell a longtemps été aussi un joueur des ligues mineures, vu que oui, son père, Ty fait. Russell, s'est porté acquéreur d'une, d'une équipe affiliée dans laquelle il a fait jouer bien des gens, y compris son fils.
Son propre fils, ouais.
Savais-tu, Tina, ça, je suis pas mal sûr que tu le sais déjà, t'en as déjà parlé durant notre enregistrement. Comme on peut le voir dans le film, Kevin Costner, qui a longtemps joué au baseball collégial, est un frappeur ambidextre. Mm-hmm. On peut le voir se positionner à gauche et à droite du marbre dans quelques scènes où Crash Davis est au bâton. Savais-tu, Tina, que en 2003, une soirée commémorative visant à célébrer le 15e anniversaire de la sortie du film devait avoir lieu au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown. La soirée a été annulée à la dernière minute par le président du Temple à cause de ses divergences d'opinion politique avec Tim Robbins et Susan Sarandon au sujet de la guerre en Irak.
Oh oui, ça, je m'en souvenais.
Quel
de ça.
Vieux conservateur
oh,
ridicule,
vraiment,
là, c'est débile.
Espèce de dinosaure.
Ridicule. Oh. Savais-tu, Tina, que lors d'une des scènes se déroulant pendant une partie des Bulls, on voit Annie porter un voile funéraire noir devant son visage. Ça, ça concerne enfin une scène coupée au montage dans laquelle Annie se rend aux funérailles de Max Pankin, le fameux prince des clowns du baseball dont on parlait. Ce personnage-là était censé mourir dans un accident de voiture à un certain moment du film.
Ah, tu vois, ça, je l'ignorais.
Savais-tu, Tina, que Jeff Bridges, Don Johnson, Nick Nolte et Tom Berenger ont tous refusé le rôle de Crash Davis? Ben, en fait, Tom Berenger, c'était plus une question de temps, vu que l'année d'après, il jouait Jack Taylor dans Ligue majeure.
Mais... pourquoi il avait refusé les autres? Est-ce qu'on le sait?
Aucune idée. Okay. Je sais pas. Il y avait peut-être d'autres projets qui leur tenaient plus à cœur ou n'importe quoi, ou peut-être qu'ils voyaient pas.
Tu sais, ils voulaient
pas
se faire nécessairement associer. Tu sais, parce que souvent, tu sais, justement, on parlait de Kevin Costner qui a fait plusieurs films sportifs et dont de baseball. Tu sais, il y a des acteurs qui veulent pas nécessairement être associés, tu sais, à quelque chose pour pouvoir avoir que des rôles par rapport
à ça. Mais c'est encore drôle, OK? Parce que il y a des noms ici, admettons, Nick Nolte a tourné avec Ron Shelton dans Blue Chip et Don Johnson joue la troisième personne du trio amoureux dans Tin Cup. Alors, encore une fois, je suis en disant, écoutez Tin Cup, s'il vous plaît. Savais-tu, Tina, que une autre scène coupée au montage révèle d'où provient la fascination d'Annie pour le baseball? Elle raconte à Crash qu'après les funérailles de son père en Floride, elle s'est mise à errer un peu partout pour faire passer son chagrin. Elle a abouti par hasard au camp d'entraînement des Yankees de New York où elle a fait la rencontre du légendaire receveur Thurman Munson. C'est après avoir passé du temps avec lui qu'Annie est devenue une passionnée de baseball. Ça explique aussi pourquoi, pendant le générique de fin du film, on voit une photo de Munson qui se trouve à l'intérieur de l'hôtel dédié au baseball qu'Annie a chez elle.
Oh!
Pas mal,
c'est peut-être aussi, aussi que ça joue dans la tête que ce soit un receveur,
Crash soit un receveur. Cherche à recréer ce moment-là qu'elle a eu avec Munson, peut-être.
Ah, qui sait.
Savais-tu, Tina, que Kim Basinger, Carrie Fisher, Michelle Pfeiffer, Melanie Griffith, Isabella Rossellini et Glenn Close ont tout auditionné pour obtenir le rôle d'Annie?
Auditionné, je savais pas. Je savais qu'il avait été, comme mettons, approché ou quoi que ce soit, mais ça me fait penser qu'elles sont toutes plus jeune que Susan Sarandon au moment.
Mais tu sais comment Susan a eu le rôle finalement, c'est que bon, les producteurs jugeaient qu'elle était trop vieille pour le rôle. Alors
et pas assez drôle aussi.
Exactement. Alors Susan, elle voulant absolument le rôle, a mis un matin des vêtements extrêmement serrés puis est allée flâner pendant une heure dans le bureau du producteur. Et après cette heure-là, parce qu'elle a sorti tous ses charmes, le producteur a dit « Ok, on a notre Annie, c'est Susan ».
Ah oh, mais comment résister?
Écoute, écoute, tu me poses la question à laquelle je n'ai pas la réponse.
Je veux pas la trouver non plus.
Écoute, je sais pas, Suzanne. En fait, elle est maintenant. D'ailleurs, c'est à cause de moi qu'elle est plus avec Tim Robbins. C'est à le souligner. Et pour finir, Tina, savais-tu, Tina, que avant que le tournage du film commence, Ron Shelton a découvert qu'il existe véritablement un joueur de baseball qui s'appelle Crash Davis. Oui. Shelton est allé le voir pour lui demander la permission d'utiliser son nom dans le film. Davis lui a demandé... ouais, est-ce que je finis avec la fille dans le film? Ouais, parce que dans ma tête, Crash Davis parle comme René Angélil.
Non, c'est ça!
Alors, Shelton a répondu que oui, et Davis lui a donné sa permission. Tina, ça a été littéralement un luxe de te recevoir
plaisir,
à 100 commentaires
plaisir,
ou presque. Et ben en fait, comme à mon autre invité la dernière fois, Joe, avec Clerks 2, je te donne une mission. Pense à un autre film que t'as envie, qu'on discute ensemble, que t'as des bons côtés et des mauvais côtés.
Est-ce que ça peut être un genre de guilt pleasure comme aussi
un plaisir coupable
oui, comme Armageddon.
Ici on ne vit que pour des plaisirs coupables. Alors c'est la mission que
pourquoi
je te donne.
Pour son plaisir.
Et j'ai pas non plus la réponse à cette question. Alors pense-y très fort et je suis sûr que nos auditeurs vont avoir un énorme plaisir à te voir revenir derrière nos micros. T'as été vraiment un plaisir avec qui être et j'espère qu'on a donné le goût à nos auditeurs de regarder La Belle et le Vétéran, Boulder Ram, de le découvrir. Alors en mon nom personnel, Sébastien Bourget, je suis avec Tina Faneuf et je vous remercie énormément de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Sans commentaires ou presque.